bienvenue pour ce nouveau numéro de Deux Colonnes à la Une, votre émission de web radio consacrée à la franc-maçonnerie, en direct live pendant 2 heures sur radiodtc.com. Merci à vous toutes et tous d'être toujours plus nombreuses et plus nombreux à écouter et surtout à podcaster cette émission. Merci. Merci à Frédéric Vincent qui vient de faire péter le bouchon de la bouteille de champagne.
Vas-y le zizi, Vincent.
Merci à Eric qui est à la technique, qui est avec nous ce soir et qui dirigera toute cette émission de main de maître comme d'habitude. Alors, ce soir, les 2 heures de notre émission seront intégralement consacrées au thème « L'imaginaire maçonnique réenchanter le monde ». L'imaginaire joue en effet un rôle primordial dans le processus de spiritualité vivante et mouvante véhiculé par la franc-maçonnerie. Comment imaginer un homme ou une femme, nouveau, nouvelle, un monde meilleur et plus éclairé? Comment les auteurs modernes ont-ils pu se recréer des mythes pour aujourd'hui avec des best-sellers ou des films à succès? On pense évidemment à Harry Potter, à Star Wars, au Seigneur des Anneaux et à bien d'autres encore. Au moment où nous parlons, s'ouvrent les imaginales d'Épinal. Et à l'intérieur même de ces imaginales, une manifestation consacrée à l'imaginaire maçonnique. Nous en parlerons tout d'abord avec Alain-Jacques Lacot, qui m'a accordé un entretien il y a quelques jours et qui est actuellement à Épinal avec notre très cher ami Philippe Benhamou. Et bien sûr, on salue Philippe, on salue Alain-Jacques et on salue d'autres amis comme Jean-Luc Maxence qui sont sur place.
Et on leur fait des bisous.
Ne vous inquiétez pas, la chronique de Philippe Benhamou est prête et évidemment, vous l'entendrez également ce soir. Pour parler d'imaginaire maçonnique et de réenchantement du monde, nous avons invité Frédéric Vincent. Vous connaissez Frédéric qui a participé à une émission de Deux Colonnes à la Une, qui était l'émission consacrée au Marquis de Sade, avec notamment Jacques Ravenne, Emmanuel Pierrat et Oksana.
Un très bon souvenir d'ailleurs.
Oui, c'est vrai. Frédéric Vincent est docteur en sociologie, j'ai essayé d'être sérieux le temps d'énumérer les titres universitaires de Frédéric. Il est docteur en sociologie, il est théoricien de l'imaginaire, ça c'est beau, il est phénoménologue de la vie quotidienne, il est chercheur au CEAQ, qui est le centre d'études de l'actuel et du quotidien à la Sorbonne. Donc c'est très sérieux en fait. Dans la continuité des penseurs du cercle Eranos, par exemple Jung, Mircea Eliade, Durand, ces ouvrages portent sur la réactualisation des mythes et symboles dans nos sociétés contemporaines. Il vient de sortir un livre tout à fait passionnant que nous découvrirons un peu plus en détail ce soir grâce à lui, Le réenchantement initiatique du monde, des mythes et des hommes, qui vient de sortir tout récemment, parce que c'est au mois de mars dernier, mars 2014, aux éditions Détrade. Un livre que nous avons lu, que nous avons beaucoup aimé et que j'espère vous aimerez également. Frédéric est l'auteur du tout aussi remarquable Voyage initiatique du corps, dont nous ne cessons de recommander la lecture, dont nous avons parlé à plusieurs reprises, et qui fut prix littéraire de la maçonnerie française 2009. Enfin, vous retrouverez bien évidemment vos chroniqueuses et chroniqueurs favoris, Marie-Françoise Blanchet, Philippe Benhamou, Jean-Michel Dardour, Laurent Kupferman, Hélène Cuny, BP, et je ferai la chronique des livres du mois. Alors, avant d'entamer cette émission sur l'imaginaire maçonnique et le réenchantement du monde, comme pour toute émission, tout seigneur, tout honneur, en tous les cas, honneur à Marie-Françoise Blanchet, qui va ouvrir notre émission, comme à chaque épisode. Donc je cède tout de suite la parole à Marie-Françoise Blanchet pour sa chronique.
Eh bien, bonsoir. Alors aujourd'hui, il était question d'imaginaire, de mythe. Vous pensez bien que je n'allais pas rater l'occasion de réfléchir avec vous sur les mythes. Le mois dernier, c'était...
On s'installe.
Mais c'est une émission rock'n'roll, il y a du Larsen.
Voilà, il va apparaître un micro bleu tout joli. Donc, Depuis l'aube de l'humanité, les êtres humains en quête de sens ont créé des mythes pour comprendre ce qui les dépasse et surtout pour accepter la violence de la mort des êtres aimés. Ils ont inventé des figures explicatives pour décrire une réalité incompréhensible, celle d'un monde parallèle, peuplé de dieux et de déesses, bénéfiques ou maléfiques. La vie et les actions de ces dieux et déesses donnaient un sens à toutes sortes de manifestations terrestres inexpliquées. Et ils se sont efforcés de s'attirer leurs bonnes grâces, au moyen d'une liturgie, car les mythes et les rites sont indissociables. La médiation entre l'humain et ce monde sacré était confiée à des personnes choisies ayant reçu les pouvoirs lors d'une initiation secrète et le mystère des transes, des extases, de l'approche de la transcendance, dans le même temps que tout ce qui vit dans la nature était sacralisé, manifestation de l'immanence. Dans notre 21e siècle, nous regardons comme une curiosité ethnologique les cérémonies chamaniques de certains peuples qui ont perpétué ce mode de fonctionnement mental et spirituel. Depuis le XVIIIe siècle, nous vivons éloignés de ce mode de pensée en recherchant et en cultivant une vision rationnelle et scientifique du monde et de l'histoire.
Oui, tout un peu trop rationnelle peut-être parfois.
Oui. Aujourd'hui, tout doit pouvoir être expliqué, démontré, reproduit, et ce mode de pensée a repoussé l'autre mode de fonctionnement dans les confins de notre esprit, ne permettant plus qu'à la folle logique, l'imagination, d'y avoir accès de temps en temps. Réflexions scientifiques et rationnelles sont indispensables à tout progrès humain, mais les plus grands savants, les plus grands chercheurs, et je ne parle pas des poètes et des artistes, n'ont jamais écarté l'intuition, l'imagination, qui leur permettait d'approcher et d'expérimenter, pour finalement découvrir ce qu'il serait possible ensuite de démontrer scientifiquement. Si on se borne à la réflexion purement scientifique et rationnelle, on se prive de la part indispensable de l'approche différente, intuitive, imaginative, merveilleuse, qui nous permet d'explorer tout ce qui nous constitue, car la raison seule ne peut pas nous permettre d'embrasser toutes les dimensions d'un être. Alors pour nous, francs-maçons et francs-maçons du XXIe siècle, l'étude et la réflexion sur les mythes, les rites et les symboles sont fondamentales. Elle constitue le pivot de la méthode maçonnique. Mais le mythe constitutif, la mort de l'architecte Hiram, n'est dévoilé qu'au troisième degré, car l'autre clé de la méthode est que tout n'est pas révélé en une seule fois. Il faut d'abord acquérir les bases, celles de la pensée symbolique en particulier, avancer par degrés dans la découverte des outils du bâtisseur, qui, bien sûr, sont étudiés sous l'angle de leur correspondance symbolique et non à la manière dont il faut connaître leur maniement et leur usage sur un chantier de construction. Simone Vierne précise que tout mythe comporte un héros dont l'histoire exemplaire va servir de modèle à ceux qui sont appelés à recevoir sa force. Pour nous, francs-maçons et francs-maçons, quel que soit le rite pratiqué, ce héros est Hiram de Tyr, l'architecte du temple construit par la volonté du roi Salomon. À travers sa vie et surtout sa mort, scénarisé dans le rituel, nous sommes confrontés à la mort et singulièrement à la mort violente. Et après la mort, à une renaissance spirituelle à travers le nouveau maître ou la nouvelle maîtresse et à travers elle ou lui irriguer le monde. Mort et renaissance sont les éternelles voies du monde, dit un rituel de la Grande Loge féminine. Ce mythe fondateur nous est commun à toutes et à tous. Certes, Hiram et les mauvais compagnons appartiennent au sexe masculin. Bon, de là, on déduire que les hommes sont tous méchants. Non, j'irai pas jusque-là. Le mythe presque s'adresse à toutes et tous en tant qu'être humain, en tant qu'être spirituel. En cela, l'initiation au troisième degré est la même pour tous, frères et sœurs. Nous voulons la même initiation forte et structurante qui se tisse avec les fils de la vie de chacune ou de chacun pour former une toile à la fois semblable et différente. En loge, dans cet espace devenu sacré par le rituel, le temps d'une tenue, nous nous situons dans un espace préservé, non religieux, non dogmatique, qui permet au sentiment d'appartenance qu'il crée de transcender les liens communautaires d'origine ethnique, de religion ou d'appartenance politique. En loge, nous sommes des êtres en quête de sens, de spiritualité, chacun à sa façon, qui ont librement choisi de s'assembler pour travailler, pour rechercher ensemble comment s'améliorer et améliorer le monde. Nous ne sommes plus des hommes et des femmes, mais des frères et des sœurs, égaux et différents, image inversée de soi-même. De ce fait, nous appartenons à une population expérimentale, à une communauté non biologique de frères et de sœurs. Cette égalité dans le respect de nos différences nous permet de travailler de la même façon, sur les mêmes fondamentaux, de recevoir la même initiation, selon le choix de chacune ou de chacun, en loge monogenre ou mixte, dans la pratique de tel ou tel rituel. Alors j'entends déjà certains pousser des hauts cris sur l'apparence d'exclusion de l'autre que constitue le choix monogenre. C'est épuisant, je vous assure que c'est épuisant à force d'entendre ça et d'être obligé de rappeler l'importance de la biodiversité jusque dans nos choix d'appartenance maçonnique. Pourquoi vouloir dans cet environnement précis un monde sans différence, sans nuance, sans particularité, enfin sans tout ce qui fait notre richesse? Pourquoi vouloir nous imposer une pensée unique? Le choix, c'est la liberté. La diversité qu'elle résulte de nos choix d'obédience différentes, de rites divers ou d'un choix monogenre ou mixte, constitue notre liberté individuelle fondamentale. Nous avons une chance extraordinaire en France d'avoir un paysage maçonnique d'une rare richesse, souvent présenté comme une division ou Dieu sait quoi, les frères ennemis. C'est une richesse et nous devons nous en réjouir. Reste à régler ce qui n'est pas un détail dans notre histoire, celui du droit de visite réciproque. Mais oui, tu peux rire, Jean-Laurent. Là encore, au raisonnement rationnel, au respect du pied de la lettre qui date tout de même d'il y a 3 siècles, on gagnerait à associer les richesses de l'imagination, de la pensée symbolique, pour imaginer, créer un entre-deux, plutôt que de camper sur la position du duel ou de prôner pour toutes et tous obligatoirement celle du duo. Je suis certaine qu'on y arrivera tôt ou tard. Enfin, vu mon grand âge, je préférerais que ce soit tôt, car sinon je crains que ce ne soit trop tard pour moi.
Merci beaucoup Marie-Françoise pour toujours cette très belle chronique. Et je vous propose, avant de retrouver Hélène Cuny et sa chronique d'actualité maçonnique, d'écouter Alain-Jacques Lacot, qui ce soir est à Épinal, mais qui, comme vous pouvez le constater, est avec nous ce soir.
Bienvenue toujours en direct live sur Radio DTC, 2 colonnes à la une. Jean-Laurent au micro. Nous allons parler quelques instants avec un personnage double. J'ai 2 personnes devant moi, 2 pour le prix d'une, qui est non seulement quelqu'un qui compte dans le paysage maçonnique, mais qui, je le pense, est un ami, alors c'est encore mieux. Il s'agit pour la première personne d'Alain-Jacques Lacot, qui est éditeur, spécialiste de l'ésotérisme, de la franc-maçonnerie, spécialiste également de philosophie, d'anthropologie, de l'imaginaire et de littérature. Et il est par ailleurs chroniqueur, s'il me souvient bien, pour le magazine littéraire et Web Magazine. Et également, il est éditeur de poèmes. Il est à l'origine de l'inflexion éditoriale, orientant l'exégèse maçonnique vers son rapport, justement, à l'imaginaire, et c'est bien l'imaginaire qui est notre sujet de prédilection et de discussion ce soir à 2 colonnes à la une. Alors je reçois également Jacques Vialbesset, qui est le nom de plume d'Alain-Jacques Lacot, qui a écrit notamment, qui a coécrit la Conjuration des Vengeurs. Et je pense que Marie-Françoise Blanchet, qui est parmi nous, se reconnaîtra, car il me semble, mais elle nous le dira, qu'elle est un des personnages de la Conjuration des Vengeurs. Il a écrit également plusieurs recueils de poèmes qui ont été très remarqués par la critique. Je veux parler de L'écorce des cœurs, du Pollen et des jours, du Nouvel Athanor ou Sous l'étoile de Giono. Et je crois qu'il travaille actuellement à un nouveau roman dans la même veine que son précédent, La Conjuration des Vengeurs, et qui s'appellerait Le Testament de l'Initié. Alors Alain-Jacques va nous en dire certainement un mot à la fin, mais ce qui nous réunit ce soir, c'est l'imaginaire maçonnique et le réenchantement du monde. Et pour tout vous dire, si Alain-Jacques n'est pas en direct dans l'émission et que nous avons pris un rendez-vous un tout petit peu préalable à l'émission, c'est parce qu'Alain-Jacques est à Épinal ce soir. Et je voudrais qu'Alain-Jacques nous parle des imaginales d'Épinal et au sein des imaginales de ce qu'il a réussi à créer depuis quelques années sur l'imaginaire maçonnique. Alain-Jacques, après cette présentation un peu longue.
Alors les, merci Jean-Laurent. Les imaginales d'Épinal, c'est un festival littéraire qui est le festival littéraire le plus important d'Europe sur ce qu'on appelle les littératures de l'imaginaire, c'est-à-dire le fantasy, c'est-à-dire tous ces héros qui nous envoient dans un monde imaginaire. Ça existe depuis 14 ans,
oui.
Et ça fait venir à peu près 40 000 personnes pendant 4 jours dans cette belle ville d'Épinal.
C'est un festival majeur.
Festival majeur au niveau européen et même mondial. Mmh. Et depuis l'an dernier, nous avons greffé sur les imaginales d'Épinal, les imaginales maçonniques et ésotériques d'Épinal. Pourquoi ? Ben, pour une raison très simple, en fait, c'est que nous avons fait valoir, je dis nous parce que même si j'ai été un de ceux à l'initiative de ce festival, il y a toute une équipe sur place qui s'en occupe.
Qui travaille
toute l'année sur ce festival. Bah pour une raison très simple, c'est ce qu'on a fait valoir aux organisateurs du Festival des Imaginales, c'est que la maçonnerie, c'est le monde même de l'imaginaire. Alors les profanes ne le savent pas, mais quand on l'explique, eh ben ils le comprennent très bien. Donc ils ont tout à fait admis que c'était justifié qu'on fasse les imaginales maçonniques et ésotériques.
Alors depuis quand est-ce qu'il y a des imaginales maçonniques ?
Depuis l'an dernier.
C'est la deuxième édition.
Et on fait, en quoi consiste-t-elle ? Eh ben, comme le reste du festival, il y a des auteurs dits maçonniques ou qui se servent, parce que l'imaginaire maçonnique, finalement, tout le monde s'en sert, à commencer par des auteurs qui ne sont pas forcément francs-maçons, mais qui ont remarqué depuis un certain temps que la maçonnerie, c'était un peu, entre ces mythes, ces rites, ces symboles, c'était un peu une gigantesque malle au trésor dans laquelle on pouvait puiser pour monter soi-même ses intrigues. Donc, une dizaine de tables rondes pendant 3 jours.
Ce qui est beaucoup, hein.
Voilà, une dizaine de tables rondes pendant 3 jours sur l'imaginaire maçonnique, de la fiction jusqu'à... une des tables rondes auxquelles je vais participer, poésie imaginaire et franc-maçonnerie, par exemple. Voilà.
Il me semble que j'ai entendu dire que un certain nombre de personnes, comme Jean-Luc Maxence, participeront cette année aux imaginales. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur qui sera là, pourquoi, comment
Eh ben, si on prend Jean-Luc Maxence, éditeur connu, mais également
psychanalyste, poète,
et quelqu'un qui vient de diriger un très important ouvrage qui s'appelle Franc-maçonnerie, histoire et dictionnaire dans la collection Bouquins chez Robert Laffont.
Nous en avons longuement parlé et c'est un voilà. Livre que nous considérons comme un livre de référence.
Mais Jean-Luc là va intervenir avec Jacques Bialbezet, donc sur une thématique beaucoup plus ciblée qui est la poésie, l'imaginaire et la franc-maçonnerie. Parce qu'il se trouve qu'il y a quand même pas mal de poètes francs-maçons ou pas, qui ont puisé exactement comme le font les romanciers, dans la symbolique maçonnique pour écrire leurs poèmes.
Très bien. Et nous sommes ce soir avec Frédéric Vincent, que je pense que vous connaissez, qui vient de sortir un ouvrage sur justement l'imaginaire maçonnique et le réenchantement du monde. Alors qu'est-ce que le poète et le franc-maçon Jacques Vialbesset a à dire sur le réenchantement du monde, l'imaginaire maçonnique, et peut-être un petit mot pour Frédéric Vincent qui je crois vous connaissez bien.
Mais en fait, le livre de Frédéric Vincent, qui s'appelle « Le réenchantement initiatique du monde »,
oui,
qui est paru aux éditions d'Étrade, fait un peu la jointure, si vous voulez bien, entre la poésie, l'imaginaire et la franc-maçonnerie, et un autre thème que je vais aborder tout à l'heure. Je veux dire par là que tout le monde a remarqué depuis des années, les sociologues les plus éminents, à commencer par l'un qu'on connaît bien dans le monde maçonnique, qui s'appelle Michel Maffesoli, que ce monde était, la modernité était à sa fin, que ce monde matérialiste n'en pouvait plus, et qu'il y avait un besoin de réenchanter le monde. Et une démarche initiatique comme la franc-maçonnerie en est une, est un bon moyen de réenchanter le monde. Parce que, en fait, c'est quoi la franc-maçonnerie ? Ce sont des gens normaux qui rentrent en franc-maçonnerie et des gens de toute classe sociale. Et qu'est-ce qui se passe ? On commence par leur dire qu'il va falloir qu'ils construisent le temple de Salomon.
Leur temple intérieur ?
Qui est donc,
éventuellement,
qui est donc cette métaphore du temple de Salomon. Et ensuite, on leur dit qu'il va falloir qu'ils deviennent des chevaliers. D'ailleurs, on les nomme chevaliers. Et en fait, à partir du moment où ils se sentent investis de cette mission, eh ben, ils le deviennent. Et finalement, et c'est là que je fais la liaison avec une autre table ronde qui va avoir lieu dans le cadre des Imaginales, la voie initiatique maçonnique, c'est un peu une série de jeux de rôle dont l'impétrant est le héros. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je vais participer à une table ronde dimanche avec un auteur bien connu qui s'appelle Philippe Benhamou.
Que nous connaissons bien ici, puisqu'il il chronique tous les mois.
Voilà.
En deux colonnes à la une.
Et donc, avec Philippe, on va faire une table ronde qui va expliquer ce que je viens de dire en deux mots, qui est donc la franc-maçonnerie, le jeu de rôle dont vous êtes le héros. Et pour terminer sur Frédéric, en fait, Frédéric Vincent explique dans le réenchantement
initiatique
le rôle qu'a l'imaginaire dans la transformation d'un individu.
Et alors, parce que vous parliez de jeux de rôle, il y a des pages tout à fait intéressantes sur un certain nombre de films, dont Star Wars, avec la quête initiatique, les Jedi, Maître Yoda, et cette chevalerie dont vous parliez, peut-être une chevalerie moderne, une chevalerie réinventée, une chevalerie qui parle à notre imaginaire d'aujourd'hui. Est-ce que c'est pas un peu les mêmes légendes, les mêmes codes, mais actualisés?
Eh ben, vous venez, en fait, de justifier vous-même pourquoi il y a des imaginaires maçonniques et ésotériques, puisque, comme vous venez de le faire remarquer, tous ces héros-là, eh ben, ils sont présents au festival Les Imaginales, puisque c'est effectivement toute cette littérature. Mais cette littérature, finalement, n'est pas nouvelle. Que ce soit le monde de Tolkien, qui est le grand ancêtre de toute la littérature fantasy, ou les nouveaux héros, ils manient tous, finalement, les mêmes mythes et la même quête, qui est une quête chevaleresque et donc initiatique.
Et je crois que Frédéric en parle, mais moi qui ai adoré dans ma jeunesse une série qui s'appelait Zorro, dans le film Zorro avec Antonio Banderas, qui est la version plus moderne, on voit Don Diego de la Vega vieux qui enseigne au futur Zorro au centre du cercle. comment il faut devenir ce chevalier, alors non pas des temps modernes, mais ce chevalier, ce héros qui défendra la veuve et l'orphelin, et où est-ce qu'il fait ? Il le fait au centre du cercle, avec des exercices à la fois spirituels, physiques, et ça se fait... Alors, ça parle peut-être pas beaucoup de nos auditeurs, mais je pense que s'entraîner au centre du cercle, ça parle beaucoup à ceux qui connaissent l'imaginaire maçonnique.
Mais c'est ce cercle dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Mais ce cercle-là, en fait, il est présent avec la même signification dans toutes les voies initiatiques du monde. Parce qu'après tout, toutes les spiritualités et les voies initiatiques ne manient que très peu de symboles qui sont des symboles archétypaux. Si l'on emploie la formule jungienne, ouais. Et si on reprend ce que disait un frère qui était un anthropologue des religions, qui s'appelait le professeur Bruno Etienne, le professeur Bruno Etienne disait finalement les hommes ont très peu d'imagination, partout dans le monde la montagne elle est sacrée, partout dans le monde là où on est l'axe du monde et on tourne autour, que l'on soit musulman tournant autour de la Kaaba à la Mecque, ou que l'on soit franc-maçon tournant autour du fil à plomb dans une loge, la signification de cette spirale, qui est une spirale descendante et montante, est exactement la même, puisqu'il s'agit, en partant de l'horizontalité où nous sommes, de rejoindre le monde des dieux, de Dieu ou des idées.
Bruno Etienne, qui nous manque beaucoup, qui était un franc-maçon du Grand Orient de France et qui a fait de magnifiques ouvrages, notamment sur Abdelkader, puisque beaucoup de sites conspirationnistes, j'allais dire, niaient l'initiation d'Abdelkader. Et Bruno Etienne a fait un magnifique ouvrage avec tous les documents prouvant non seulement l'initiation, mais l'adhésion profonde d'Abdelkader.
Prouvant qu'Abdelkader était franc-maçon.
Oui, tout à fait.
Ce que réfutent d'ailleurs les historiens actuels du pays d'origine de l'émir Abdelkader.
Oui, mais tous les documents sont là, que ce soit ceux de la loge Henri IV
mais bien sûr.
À Paris,
mais bien sûr.
Ou de la loge du Caire, enfin, il y a aucun doute là-dessus. Petite innovation, je vais demander à Alain-Jacques Lacot de faire un duo avec Laurent Kupferman pour présenter sa chronique, puisque nous sommes dans l'innovation aujourd'hui. Et donc, c'est Alain-Jacques qui va donner la réplique tout à l'heure à Laurent Kupferman. En tous les cas, Alain-Jacques Lacot, merci beaucoup d'avoir participé à notre émission, même en léger différé, j'allais dire, mais ça, qu'importe. Je pense que Marie-Françoise Blanchet interviendra pour dire comment elle s'est reconnue dans la conjuration des vengeurs, et Philippe Benhamou, évidemment, qui est un des piliers de notre émission, comme Laurent Kupferman, comme Marie-Françoise Blanchet, comme Jean-Michel Dardour, comme Hélène Cuny, qui sont nos chroniqueurs habituels de l'émission.
Mais Jean-Laurent, ouais. Vous me donnez l'occasion d'expliquer le pourquoi de mon pseudo. C'est qu'en fait, étant l'éditeur de la maçonnerie et ayant eu l'idée de ce roman, où il est question de tuer finalement tous les grands maîtres de toutes les obédiences parce qu'ils auraient trahi l'idéal maçonnique.
Ça ne se peut pas.
Je m'étais dit, ils ont beaucoup d'humour, mais peut-être pas jusqu'à là, donc il vaut mieux que je prenne un pseudo. Mais c'était il y a 7 ans, et le pseudo a été dévoilé depuis.
Ah, mais c'est une tradition que de dévoiler les mystères et les secrets de la franc-maçonnerie. Merci beaucoup Alain-Jacques Lacot, Jacques Vialbesset, et puis très bonnes imaginales maçonniques d'Épinal ce vendredi, ce samedi et ce dimanche. À Épinal. Merci beaucoup.
Merci.
Merci à Alain-Jacques Lacot à Alain-Jacques Lacot et à sa très belle voix grave pour cette interview avant les imaginales d'Épinal. Et toujours avant que Marie-Françoise Blanchet ne réagisse à vif, parce que Marie-Françoise Blanchet est vivante, bien qu'Alain Jacques l'ait fait disparaître dans La Conjuration des Vengeurs.
Oui, mais tout à la fin.
Oui, tout à la fin. C'est la dernière à disparaître. Oh, elle n'avait pas tant trahi de secret que ça par rapport aux autres dans La Conjuration des Vengeurs.
Ou alors, Vial Bessé avait très très peur de mes réactions.
Les deux étaient là, je crois. Et nous allons tout de suite écouter, avant un morceau de musique, la chronique d'actualité maçonnique d'Hélène Cuny, directrice de la rédaction de l'excellent Franc-Maçonnerie Magazine.
On présente souvent le mythe d'Hiram comme le mythe fondateur de la franc-maçonnerie, apparu vers le milieu du...
Bonsoir Jean-Laurent et bonsoir à tous nos invités et auditeurs. Alors que nous réserve l'actualité maçonnique des prochaines semaines ? Commençons tout de suite par une page culture. Je vous emmène à Épinal, dans les Vosges, où se tient ce week-end la 13e édition des Imaginales. Alors les Imaginales, c'est un festival du livre entièrement consacré à l'imaginaire, au fantastique, au thriller et autres contes et légendes. Alors me direz-vous, quel lien avec la franc-maçonnerie ? Eh bien, durant les 4 jours du festival, la loge La Fraternité Vosgienne en profite pour faire une porte ouverte. C'est l'occasion pour les visiteurs de découvrir la franc-maçonnerie de l'intérieur et de confronter l'imaginaire au réel. Il y a également un prix littéraire maçonnique qui sera remis le dimanche 25 mai. Alors quittons le domaine du fantastique pour revenir à des sujets plus sociétaux. Avec le samedi 24 mai, une conférence organisée par le droit humain à Guyancourt dans les Yvelines à partir de 15h sur le thème « Génétique et médecine prédictive, quel progrès pour l'humanité ?» Alors l'actualité, c'est aussi, comme vous le savez, dans 2 jours, les élections européennes. Des élections qui laissent présager, dans le climat actuel, un fort taux d'abstention mêlé à une montée en puissance du Front National. Pour analyser les résultats, une conférence publique est prévue mercredi 28 mai de 17h à 19h au siège du Grand Orient de France, dans le 9e à Paris. Quels enseignements tirer du scrutin européen ? Toujours sur le thème de l'Europe, le jeudi 5 juin à 19h30, une autre conférence, cette fois de la Grande Loge de France, intitulée « L'Union européenne, des paradoxes et des défis. Quelle place pour la laïcité ?» avec comme intervenant Miguel Angel Martinez, vice-président du Parlement européen. Donc ça se passe au siège de la Grande Loge de France, rue Puteaux, Paris 17e. Et puis cette année, on célèbre le centenaire de la mort de Jean Jaurès, cet humaniste et pacifiste assassiné à l'aube de la Première Guerre mondiale. Fervent défenseur de la République, homme engagé, militant pour l'égalité des droits et pour un idéal de paix, il n'est pas une rue dans les villes de France qui ne porte son nom. Alors nous avons sélectionné une pièce de théâtre qui rend hommage à ce grand homme, Jaurès, le bal républicain. Il y a une représentation unique lundi 16 juin à 21h au théâtre de la Gaîté Montparnasse à Paris dans le 17e. Dans le 14e, pardon. Enfin, le 10 mai dernier, nous avons célébré la journée commémorative de l'abolition de l'esclavage. C'est le thème à la une du dernier numéro de Franc-Maçonnerie Magazine, qui vient de sortir en kiosque, et qui revient sur ce lent processus
et qui parle toujours
esclavagiste, en comparant les mouvements en France et en Angleterre. Voilà pour l'actualité, Jean-Laurent. À très bientôt.
Merci beaucoup, Hélène Cuny, directrice de la rédaction de Franc-Maçonnerie Magazine. En effet, cet excellent nouveau numéro de Franc-Maçonnerie Magazine qui est consacré à l'abolition de l'esclavage. Mais je voudrais signaler à nos auditrices et nos auditeurs, ça c'est mon côté parpaillot, un excellent article qui s'appelle « Franc-maçon et protestant, une relation ambiguë à la République ». Il y a au moins 8 pages écrites par Jean-Moïse Bredberg qui sont excellemment écrites. Et qui pour nous sont d'un très très grand intérêt.
Et d'une seule traite, ce qui est normal, pour l'abolition de l'esclavage.
Non mais c'est, je ne relève pas. Donc lisez aussi Protestants et francs-maçons dans le dernier numéro de Franc-maçonnerie Magazine. Et avant de nous retrouver avec Frédéric Vincent, je vous propose une pause musicale. Et il n'est pas coutume que je ne sache pas quelle pause musicale nous allons faire, mais Eric est le chef d'orchestre ce soir, et donc il nous propose le morceau qu'il veut bien nous jouer maintenant. Ah. Ah non, je n'y crois pas, on dirait presque du David Hasselhoff. Mais ce n'est pas du David Hasselhoff, c'est le choix d'Éric ce soir. Et tout de suite, nous retrouvons pour la fin de cette première heure Frédéric Vincent qui nous fait la très grande amitié d'être avec nous. Puisque jusqu'à 21h, nous discuterons donc avec Frédéric Vincent et nous aurons également la chronique histoire de Laurent Kupferman qui, je crois, parlera de quelqu'un qui s'appelle Hiram, mais je ne sais pas trop qui c'est.
Enfin,
alors, tout de suite, bonjour Frédéric Vincent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes très sérieusement docteur en sociologie, théoricien de l'imaginaire. Alors, aux théoriciens de l'imaginaire, évidemment, la première question, qu'est-ce que l'imaginaire a à voir avec la franc-maçonnerie ? Frédéric Vincent.
Jean-Laurent.
BP.
Juste pour ne pas rappeler son pédigré, ouais. Tu fais plus simple, tu fais « vas-y, Freddy ».
C'est pas un film d'horreur. Frédéric Bonsoir. Vincent.
Bonsoir, cher auditeur.
Quelle imagination.
Je crois qu'il y a de l'inventivité ce soir. De l'inventivité dans l'air et ça fait plaisir. Merci en tout cas de m'avoir invité ce soir.
C'est nous qui vous remercions.
Et c'est un grand plaisir de vous retrouver pour une nouvelle fois.
D'ailleurs, on sent que tu vas être là comme chroniqueur.
Souvent. Bon, en tout cas, j'ai eu plaisir la dernière fois à converser avec Oksana.
Voir comme tu sers le champagne, on voit que c'est fait pour devenir un membre.
Il y a des photos qui le prouvent.
Il y a des photos à l'appui. Je remercie. En tout cas, c'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être avec vous ce soir.
Non, les photos ne sont jamais publiées.
C'est quoi le geste que tu fais quand tu parles d'Oksana? C'est bizarre. En fait.
Frédéric Vincent.
Alors, comme je disais, en tout cas, je suis très très content d'être ici parmi vous.
Et l'imaginaire maçonnique. Et
avant de parler de l'imaginaire maçonnique, je tenais à exprimer le plaisir que j'ai eu dernièrement à participer à une exposition qui a lieu en ce moment à la Cité du Cinéma. Une exposition qui est intitulée Star Wars Identities.
Tiens, faut que j'emmène mon fils.
Alors pour ceux qui ne connaissent pas le principe. Je ne sais pas si c'est la première fois, mais en tout cas, l'exposition a un intérêt particulier pour moi. Enfin, je pense que, je dirais même pour la plupart des initiés, maçons ou non, dans la mesure où cette exposition, j'ai trouvé ça vraiment très intéressante dans la mesure où elle propose une sorte d'interactivité avec le visiteur. C'est une exposition sur Star Wars, bien sûr, sur l'univers de George Lucas. Et en même temps, une exposition qui propose qui ouvre en fait une sorte de parcours initiatique et qui vous propose de construire votre personnage, de découvrir le personnage que vous êtes dans l'univers Star Wars en suivant 10 étapes.
BP n'est pas Jabba the Hutt. Comment est-ce qu'on veut penser?
Je comparais tout ça à un Wookie, mais ça, on peut en débattre. Bon, Chewbacca n'est pas loin, ne vous inquiétez pas.
Non, ça c'est une vache.
Oh,
bon, c'est une cousine de Chewbacca, une ouais. Vache.
Frédéric Vincent poursuit sur Star Wars.
Alors, c'était intéressant d'aborder donc la question de cet imaginaire propre à l'univers Star Wars. Donc, quand je le rappelais, donc il y a 10 étapes dans cette exposition qui vous permettent un petit peu de découvrir le personnage que vous êtes et par là même de découvrir ce que vous êtes. Donc il y a une première étape, enfin vous êtes muni d'une sorte de badge et il y a des bornes interactives où vous choisissez l'espèce à laquelle vous voulez appartenir, soit l'espèce humaine, soit l'espèce des Ewoks, des Wookiees.
Yoda, il est humain ?
Yoda n'est pas humain. Alors je ne sais plus quelle espèce il appartient, mais il appartient bel et bien à une autre espèce.
J'aurais tellement aimé être Han Solo, mais c'est impossible.
Ah si, c'est possible, parce qu'on verra par la suite. Donc vous pouvez choisir votre sexe, votre couleur de peau, vos habiletés naturelles.
Absolument.
Votre environnement, la planète d'où vous provenez.
Moi, le soutien-gorge de la princesse Leia.
Tout de suite.
J'allais dire que Marie-Françoise ressemblait à la princesse Leia, mais par le soutien-gorge, bébé, tout de suite. Alors que c'est la spiritualité, la force.
Alors, il y a aussi le.
Continuité.
Il y a aussi les valeurs. On vous interroge sur vos valeurs,
oui.
Sur les principes, principes de votre existence sociale, sur votre métier, sur les événements de votre vie.
Oui.
Et à la fin, on vous révèle le personnage que vous êtes dans l'univers Star Wars. C'est très intéressant, notamment pour moi qui suis chercheur et qui m'intéresse à ces univers fantastiques Et ce que je trouve intéressant, c'est que on se rend compte que les masques, ou le jeu des masques, révèle finalement vos aspirations profondes dans votre existence. Et je ne peux pas ne pas faire le parallèle avec ce que nous vivons en loge. On ne vous demande pas explicitement à quel sexe vous appartenez, quelle est votre espèce, comment se comporte votre famille, etc. Mais on est toujours sur le principe du jeu de rôle. Parce que finalement, okay. L'exposition de Star Wars Identities met en avant justement tout ce principe de jeu de rôle. Ça veut dire fabriquer un personnage. On va retrouver ce principe dans des jeux en ligne tels que Warcraft ou Star Wars Old Republic. L'idée est toujours de construire un personnage par rapport à ce que l'on vit personnellement, par rapport à ses valeurs, par rapport à son caractère, par rapport à sa famille et son environnement. Ce qui m'amène à interroger l'imaginaire et la maçonnerie, c'est l'idée que la franc-maçonnerie est à l'heure actuelle la seule institution, ou une des rares en tout cas institutions en Occident, à pratiquer des rites de passage, des rites initiatiques qui mettent en mouvement des mythes, des symboles.
La seule, dirait René.
La seule, peut-être, la seule. Enfin, bon, je n'exclus pas d'autres possibilités, mais en tout cas, une des seules. Et Marie-Françoise tout à l'heure parlait à juste titre d'un personnage mythique qui est très important pour la maçonnerie, qui est le personnage d'Hiram.
Je crois, mon petit doigt me dit que Laurent Kupferman en dira un petit mot tout à l'heure, ce n'est que mon petit doigt.
On ne peut pas.
Dans quelques minutes.
Ne pas parler d'Hiram.
On ne peut pas ne pas parler d'Hiram.
Frédéric Vincent et Marie-Françoise.
Parce que je crois que c'est la clé, en tout cas, c'est peut-être le secret ultime de la maçonnerie, c'est la découverte de ce personnage. Il y en a d'autres derrière. Il y en a d'autres. Il y a toute une flopée, en fait, de personnages. Mais Hiram n'est pas sans me rappeler Obi-Ram Kenobi.
Obi-Ram, c'est presque ça.
Oui, c'est presque ça.
Mais moi, en maçonnerie, surtout à la Gap, je vois plutôt Jéroboam.
Bon, Frédéric
Vincent et Obi-Wan Kenobi. Ou Obi-Ram Kenobi.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Star Wars, tout le monde ne connaît pas Star Wars, quoique, bon, j'ai dit tout là-dessus, mais oui. C'est vrai qu'il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, l'univers est dominé par les redoutables chefs de l'Empire Galactique, la princesse Leia. Organa, qui les combat avec l'aide de quelques rares rebelles, s'empare des plans d'un vaisseau spatial, l'étoile de la mort, la nouvelle arme suprême de l'Empire, l'As. Elle est faite prisonnière par Dark Vador et ses soldats. Un androïde et un robot parviennent à échapper au guet-apens avant d'être capturés à leur tour par une peuplade primitive. Celle-ci les revend à un acheteur dont le neveu, Luke Skywalker, parvient à décoder une partie du message confié à l'androïde par Leia. L'androïde en question étant R2-D2. Il s'agit maintenant de partir au secours de la belle, tout en déjouant les plans du maléfique empereur. Et c'est là qu'on découvre un personnage important qui est Luke Skywalker, le jeune initié, un jeune fermier, on apprend que c'est un jeune fermier, et qui rêve de devenir un pilote de vaisseau, de vaisseau intergalactique. Mais c'est son oncle et sa tante... met une sorte de pression sociale en disant écoute mon cher Luke Skywalker, il vaut mieux pour toi que tu restes à la ferme, on a besoin de ton aide, etc.
Bref, ils lui disent la ferme.
Il y a quand même un enjeu de perpétuer une tradition familiale, mais il apprend que finalement son père, il découvre par le biais de cet androïde R2-D2, il découvre un lien avec son père, un lien qu'il ne connaissait pas, puisqu'il rencontre le maître Jedi Obi-Wan Kenobi. Donc cette rencontre avec le mentor est capitale dans l'univers Star Wars. C'est le mentor, le maître. Et on sait à quel point cette notion de...
C'est mon maître.
Exactement. On sait à quel point cette notion de maître est importante pour notre... En tout cas, dans notre parcours maçonnique. Donc, quand il va rencontrer le maître Obi-Wan, Obi-Wan... comprend les doutes, les peurs, les angoisses du jeune initié, et il va petit à petit l'aider, en tout cas, à surmonter ses peurs. Et à la fin de l'épisode 1, il y a un événement qui est très très marquant dans le film, qui est la mort d'Obi-Wan. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Obi-Wan Kenobi va affronter Dark Vador, qui n'est nul autre que le père du jeune Luke Skywalker, donc Anakin Skywalker. Et dans cet ultime combat,
son père caché,
hein, devant, donc devant,
encore
dans,
un,
dans, encore un, hein, pour... Dieu, oh, combien ils sont nombreux. Mais dans cet ultime combat, Obi-Wan va avoir un geste très important. C'est celui du sacrifice. Luke assiste au combat entre le Obi-Wan Kenobi, qui, rappelons-le, est le maître du jeune Anakin Skywalker, Dark Vador, et il se laisse mourir. Il se laisse trancher le corps devant les yeux effarés de Luke Skywalker. Et ce geste du sacrifice n'est pas sans rappeler le geste de notre cher maître Hiram, qui finalement, face aux mauvais compagnons, face au côté obscur de la force, face aux gens ténébreux, face aux chevaliers ténébreux, accepte finalement de mourir. Au lieu de se battre, au lieu d'éradiquer les mauvais compagnons, il préfère se sacrifier pour montrer justement aux jeunes initiés, aux jeunes Skywalker, la manière dont il doit réagir, lui transmettre.
Ce n'est pas ainsi que je l'ai reçu, qu'il doit se demander.
C'est ça la clé. C'est aussi transmettre, par le sacrifice, on transmet une énergie vitale. C'est vrai que souvent, ce qui est intéressant, c'est que souvent, nous, en tant qu'êtres humains, on a une conception, on peut avoir une conception très objective, très nihiliste même de la mort, en tant que finitude, en tant que carré brutal de la vie. Mais dans cette conception-là, on voit que le sacrifice sert de transmission. Et c'est cette idée de transmission qui me paraît en tout cas fondamentale dans notre parcours de franc-maçon. Ça veut dire que le maître, l'attitude du maître, tout ce qu'il incarne n'est pas mort en vain. Il peut se réitérer, il peut se répéter à travers le geste du jeune initié. Et c'est pour ça que c'est intéressant, je trouve, et je pense que le message essentiel de Star Wars se situe là. C'est-à-dire que le jeune initié perpétue une tradition, perpétue le geste de ses maîtres. Et le sacrifice d'Obi-Wan, et quand on regarde l'épisode 1 de Star Wars, la menace fantôme, quand on voit le maître d'Obi-Wan, Kenobi, qui est Qui-Gon, quand il se bat contre Darth Maul, on voit à un moment donné, et c'est peut-être pas très explicite, mais à un moment donné, on voit qu'il lâche l'épée et qu'il se laisse volontairement abattre par Darth Maul. Et il y a un geste qui se répète, le sacrifice. Et c'est ça qui est intéressant, en tout cas, le sacrifice, on le retrouve dans de nombreux mythes, hein, c'est pas exclusif à Star Wars, je vous rassure, on le trouve dans beaucoup de mythes grecs, égyptiens, et... En tout cas, je trouve que c'est intéressant de prendre l'exemple du sacrifice comme justement avènement d'une conception de la mort comme renaissance, comme transmission, comme régénération de la vie.
Et justement, pour parler du sacrifice d'Hiram, je vous propose d'écouter la chronique de Laurent Kupferman, qui sera interrogé, mais ce n'est pas un mauvais compagnon, par Alain-Jacques Lacot lui-même. Laurent Kupferman.
Hiram comme le mythe. On présente souvent le mythe d'Hiram comme le mythe fondateur de la franc-maçonnerie. Apparu vers le milieu du XVIIIe siècle, en même temps que le système de haut grade, le personnage est plutôt métaphoriquement le premier des francs-maçons de l'ère moderne, n'est-ce pas ?
Absolument, Alain-Jacques. Comme tous les systèmes philosophiques, ésotériques et initiatiques, la franc-maçonnerie utilise aussi un personnage dont l'objet est de permettre une forme de transfert aux initiés au fur et à mesure de leur parcours.
Mais au fait, qui est Hiram ?
Hiram, c'est un personnage assez secondaire dans la Bible. Il est présenté comme l'architecte du temple de Salomon. En réalité, il n'aurait été, selon les textes sacrés, qu'un maître bronzier, le maître des travaux d'airain, qui aurait notamment façonné les fameuses colonnes Jacquin et Boaz, qui ornaient le mythique temple. Alors, c'est le fils d'une veuve de la tribu de Nephtali, dont le grand prêtre porte un pectoral orné d'un diamant. Hiram est assassiné sur le chantier du temple par trois mauvais compagnons, aveuglés par l'ambition, la cupidité et le fanatisme. Il est tué au moyen de trois coups portés à l'épaule, au front et à la nuque. Alors, la cérémonie du troisième degré, celle du grade de maître, hein, c'est celle où le personnage d'Hiram apparaît, met en scène ce psychodrame, et l'impétrant joue parfois le rôle d'Hiram, ou bien y assiste, assis sur des colonnes. Finalement, on sait assez peu de choses sur Hiram, mais ça n'est pas là le plus important.
Dans la symbolique maçonnique, il joue pourtant un rôle prépondérant.
Oui, tout à fait. La portée de symbolique de ce mythe est multiple. D'abord, Hiram incarne un centre de l'union, un modèle, et donne un sens au travail. D'ailleurs, dans la cérémonie d'exaltation, lors de la révélation du personnage, la loge est décorée en noir. Cela crée et cela fait symboliquement de l'atelier une tombe, celle dans laquelle l'initié, après avoir appris à manier les outils dans les deux premiers grades, se transmute en un homme plus sage. Par son sacrifice, Hiram ouvre un chemin vers un parcours plus lumineux ou tout au moins plus maîtrisé à celui ou celle qui devient ainsi un maître parfait qui acquiert la pleine souveraineté.
Hiram, le premier franc-maçon, donc. Hiram, le modèle. Mais est-il plus que cela encore ?
Absolument, Alain Jacques. Hiram est aussi un mythe qui replace l'idée de la mort dans une dynamique qui dépasse sa réalité physique. C'est probablement pour cela que ce grade est considéré comme le moment le plus important pour tous les initiés. La franc-maçonnerie, comme toutes les sociétés traditionnelles et initiatiques, utilise les méta-récits. Le mythe d'Hiram symbolise tout à la fois le savoir et est un moyen de projection, d'intégration. Les méta-récits, en général, racontent les succès et les tentatives des héros. Ils représentent soit des modèles positifs ou négatifs, et ce sont des modèles d'intégration. Alors, aux institutions établies, alors ils définissent des critères, bien sûr, des étapes d'évaluation de compétences. Ils mettent en œuvre des jeux de langage, une forme de théâtralité, le rituel, par lesquels les sœurs et les frères peuvent se connecter et se situer. Le méta-récit d'Hiram, et plus généralement le rituel, permettent d'acquérir le savoir-dire, le savoir-entendre, le savoir-faire. Hiram, personnage universel qui, pour paraphraser un slogan des années 70, pourrait être une femme noire et lesbienne, permet à toutes et à tous de se lier à la communauté des humains et des initiés. Hiram est en quelque sorte le personnage central d'une grammaire qui permet de voyager dans l'imaginaire de l'intelligence du cœur.
Merci Laurent.
Merci Alain Jacques.
Merci à Laurent Kupferman et à Alain Jacques Lacot pour ce pas de deux autour de Maître Hiram. Et avant de retrouver Frédéric Vincent pour la deuxième heure de notre émission, je vous propose une pause musicale. Et comme la première, puisque Eric ne veut rien dire ce soir, pause musicale.
La surprise.
Alors, j'ai
surprise.
Juste une annonce à faire en raison d'une grève d'une certaine catégorie de personnel.
C'est parti.
C'est pas une grève, c'est une mutinerie.
Thank you.
sommes-nous dans les ténèbres et dans le côté obscur de la force? En tout état de cause, nous entamons la deuxième heure, la deuxième et dernière heure déjà, de deux colonnes à la une sur Radio DTC avec Eric à la technique, BP Marie-Françoise et Frédéric
Vincent. Et il n'y a pas que les heures qu'on entame.
Ouais. Et Frédéric Vincent qui est avec nous. Et dans cette deuxième heure, vous entendrez évidemment la chronique de Jean-Michel Dardour, la chronique des livres, la chronique de Philippe Benhamou, la franc-maçonnerie expliquée aux profanes. Et tout de suite, il me vient une question à Frédéric Vincent. Sommes-nous plongés dans les ténèbres, comme un certain évangile d'un certain Jean nous le dirait, dans une franc-maçonnerie à la fois traditionnelle et spirituelle? Sommes-nous plongés dans les ténèbres? La lumière luit-elle dans les ténèbres? Et les ténèbres ne l'ont-elles point reçue? En un mot, mon cher Frédéric Vincent, faut-il réenchanter notre monde plongé dans les ténèbres? Frédéric Vincent.
Alors, je pense que le réenchantement, enfin, à mon sens, est avant tout un projet politique, d'envergure d'ailleurs. Et que le réenchantement, en tout cas, on ne peut pas poser la question
du réenchantement. Bébé se liquéfie au mot politique.
Pourquoi donc? je pense que le réenchantement ne peut pas être, en tout cas, être compris sans se référer.
Je suis un garçon poli, je ne tique jamais.
Non, sans se référer à ce qu'a été, en tout cas, la notion de désenchantement chez Max Weber. Donc je rappelle chez le sociologue allemand Max Weber, qui a inauguré cette notion de désenchantement du monde.
Mon livre de référence, mon livre de chevet, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme de Max Weber.
J'avais oublié que tu étais protestant.
Frédéric Vincent poursuit.
Mais... Vous êtes deux comme des témoins de Jéhovah. Hein.
Disons que Max Weber soumet l'idée que notre monde connaît une phase de désenchantement par le fait d'une bureaucratisation excessive des règles de vie, hein, par une rationalisation abusive des rapports économiques et par une déspiritualisation profonde des relations humaines. C'est pour ça que c'est intéressant d'écouter des sociologues comme Michel Maffesi parler de réenchantement du monde et proposer en tout cas d'autres valeurs sociétales, d'autres manières de concevoir les relations humaines, la manière dont les institutions s'organisent, comment dire, organisent en tout cas la vie sociale.
Pour comprendre ce que dit Frédéric Vincent, je ne saurais trop vous recommander dans le livre dont nous avons parlé tout à l'heure, La franc-maçonnerie, de Jean-Luc Maxence, un magnifique article de Michel Maffesoli, justement, qui s'appelle, je le retrouve, Réenchantement du monde et franc-maçonnerie, par Michel Maffesoli. Alors, pour ceux qui le savent, page 545, mais Frédéric Vincent continue.
Au flux, je croyais que c'était la 546.
Faut être précis. Frédéric Vincent.
Alors, c'est vrai que le désenchantement du monde ne va pas sans ce que Weber va appeler une hyper-rationalisation de la vie sociale. Il faut comprendre que la pensée logique, la pensée analytique, va prendre une importance considérable à partir du 15e siècle, à partir du cartésianisme. On va pas cracher dans la soupe, on va pas cracher non plus sur la pensée logique et ce qu'elle a permis d'apporter.
Non, mais est-ce que la franc-maçonnerie naissante, ou en tout cas une branche de la franc-maçonnerie naissante, ne s'est pas justement constituée par rapport peut-être à un excès d'un rationalisme naissant, et c'est une de ces branches de la franc-maçonnerie qui est intéressante aussi.
Ce que j'allais expliquer, c'est effectivement. Au moment donné, ou peut-être dans la société occidentale, à un moment donné, où on est dans un excès de pensée logique, il est intéressant de souligner la manière dont la maçonnerie va se constituer au XVIIIe siècle, en proposant, en préservant ce que le projet prométhéen, ce que le projet moderne souhaite évincer, c'est-à-dire les mythes, les rites et les symboles.
Tout à fait.
C'est-à-dire qu'à un moment donné où l'imagination apparu comme la folle du logis. C'est intéressant de voir la manière dont la maçonnerie, justement, va peut-être s'opposer à ce projet de société et préserver cette force de l'imagination, cette force du mundus imaginalis, ouais, comme le supposait Henri Corbin. Ouais. Et ce qui m'intéresse.
Et que se poursuit dans ce qu'il est appelé la tradition.
Dans la tradition.
Le fil conducteur.
Voilà. Il n'y a pas que le progrès, il y a aussi la préservation de la tradition.
Oui, mais il y a un danger. Si je lis bien ton premier chapitre.
Et le danger, bien sûr.
Le danger, le 25 mai.
Le danger, c'est l'hypo ou l'hyper.
Oui.
Pour ceux qui en doutaient, BP lit bien les livres de nos invités.
C'est ce que dit Gilbert.
Du premier à la dernière ligne.
Pourtant, je sais lire l'écrire.
Hein. Le danger, c'est ni le logos, ni le mythos, ni l'hémisphère droit, ni l'hémisphère gauche. Le danger, c'est l'hégémonie d'une pensée sur l'autre. Donc le danger, c'est la non-contradiction. En tout cas, à mon sens, tel que je le comprends à travers, par exemple, les penseurs de l'école de Francfort, les penseurs néo-marxistes qui ont critiqué de manière très virulente le rationalisme ambiant de la société moderne, ce qui me dérange en soi, c'est cette idée de principe de non-contradiction, le fait qu'une chose ne peut pas à la fois être et ne pas être, une chose est soit blanche, soit noire, mais ne peut pas être les deux à la fois. Et c'est ce principe-là qui m'intéresse, c'est le principe de la pensée analogique, ce que l'on défend en maçonnerie.
Hommes et femmes, par exemple, comme
l'idée que, par exemple, un homme et une femme, c'est une et même chose. Alors, voilà. C'est incroyable,
comme
quand même, de dire ça aujourd'hui.
Comme disait Saint-Thérèse de Lisieux, je choisis tout.
Voilà, je choisis tout, je choisis d'être à la fois un homme et une femme.
Je veux tout.
Et on rejoint, par exemple, mon confrère Jean-Luc Maxon n'est pas là, mais quand on reprend un petit peu la pensée jungienne, l'idée d'animus, d'anima, l'idée que l'être humain est à la fois homme et femme, il y a une part masculine, une part féminine. Et je trouve qu'aujourd'hui, en tout cas, au niveau des recherches en anthropologie, en psychologie, en sociologie, c'est encore quelque chose qui a du mal à se faire entendre. Et c'est peut-être quelque chose qui... En tout cas, je prends ça comme un tort dans le progrès scientifique.
C'est cette volonté de toujours nous mettre une étiquette et de nous mettre dans un tiroir.
C'est ça, dans une catégorie. Parce
on a le droit d'être vraiment tout ce qu'on veut à la fois.
Et tout à fait.
Et vraiment,
on peut être ici, être ailleurs.
Voilà, de cultiver tous nos paradoxes.
En même temps, bien sûr, il faut faire attention parce qu'on est aussi en proie... ça rejoint la physique quantique, hein, c'est ce qu'a montré Bachelard, la manière dont la physique quantique aussi se réappropriait la pensée analogique. En même temps, bien sûr, on peut peut-être aboutir à des dérives, hein, on n'est jamais à l'abri des dérives. Donc, d'une part, il y a l'obscurantisme du mythos, et d'autre part, il y a l'obscurantisme du logos. Donc, aujourd'hui, je pense que le réenchantement, en tout cas le projet de réenchantement, c'est surtout faire la part des choses et pouvoir parvenir à une coincidentia oppositorum, une harmonisation des contraires, quelque chose qui fasse qu'on peut justement à la fois reconnaître sa part masculine, sa part féminine, à la fois reconnaître son côté obscur et son côté lumineux, parce que Star Wars ne dit pas autre chose que cela. C'est pas le bien opposé au mal, c'est justement trouver une harmonie entre des tensions, des pulsions, des pulsions de mort et des pulsions de vie, nous dirait Freud, mais des pulsions qui existent en nous et qui existent aussi dans la société elle-même.
Et qui existent en même temps.
Qui sont en même temps. Donc, il faut trouver l'harmonie. Et je pense que le cheminement d'un être humain, le cheminement d'une société, c'est de trouver cette harmonie, ni plus ni moins. Et ce qui m'intéresse dans la démarche maçonnique, c'est que son centre, son cœur, son essence même, c'est cette recherche d'harmonie. Ce qu'on ne trouve pas dans les systèmes idéologiques dominants de notre société occidentale, puisque ce sont des systèmes qui sont basés sur la disjonction, sur un système de coupure où c'est soit noir, soit blanc, mais pas les deux à la fois. Et l'exemple pullule, notamment sur la blogosphère maçonnique. Je n'en dirai pas plus, on en dira peut-être plus tout à l'heure.
On en parlera plus tard. Et en parlant de côté lumineux, je pense qu'il nous faut maintenant lire Jean-Michel Dardour, qui est le président du think tank franc-maçonnerie et société, qui malheureusement n'a pas pu être avec nous ce soir.
Et on le regrette.
Et on salue Jean-Michel, qui prend un repos bien mérité, un repos familial à la campagne.
Mais on fera un banc d'air pour le Dardour perdu.
Mais Jean-Michel Dardour étant quelqu'un de très consciencieux, il nous a envoyé un texte, le texte de sa chronique que je vous propose de lire. Car en effet, Jean-Michel souhaite appeler l'attention de nos auditrices et de nos auditeurs sur les lauréats des premiers grands prix humanistes et société du think tank dont il est président, franc-maçonnerie et société. Le lundi 2 juin, c'est dans pas longtemps, hein, le lundi 2 juin à 18h, dans les salons de l'hôtel de l'Industrie, 4 place Saint-Germain à Paris,
le plus beau quartier de Paris,
voilà, seront attribués les premiers grands prix humanisme et société.
Mais Jean-Laurent, je suis inquiet, est-ce le complot maçonnique, parce qu'on appelle ça le triangle d'or?
Ah, c'est toujours le complot maçonnique. Créé à l'initiative du think tank franc-maçonnerie et société, dont je le rappelle, le président est Jean-Michel Dardour, passé premier grand maître adjoint de la Grande Loge de France, ces distinctions ont pour but de mettre en lumière des femmes et des hommes, je répète, qui, à travers leurs actes et leurs travaux, portent haut les valeurs de fraternité, d'éthique et de respect de la dignité humaine. Alors, il y a eu un jury totalement indépendant, composé, comme vous allez le voir, de personnalités particulièrement remarquables. Khaled Benchek, qui est physicien, président de la Conférence mondiale des religions pour la paix, Monique Castillo, qui est philosophe, Jean-Claude Guillebeau, qui est écrivain, essayiste, conférencier et journaliste, Sophie de Menton, qui est la présidente de Société du mouvement éthique, membre du Conseil économique, social et environnemental, Radu Mihailianu, j'ai du mal toujours à prononcer son nom.
Le cancer.
Qui est réalisateur et scénariste. Gérard Rabinovitch, qui est philosophe, directeur à l'Institut européen Emmanuel Levinas. Joël de Ronay, qui est scientifique, président exécutif de Biotics International. Et enfin, Perrine Simon-Naoum, qui est présidente de l'association Pierre Simon, ont choisi ensemble d'attribuer les grands prix de l'association Humanisme et Société. Alors, pour tout vous dire, ces distinctions seront le lundi 2 juin 2014 attribuées à, parce que ce ne sont pas seulement des prix, ce sont surtout des distinctions, le Grand Prix Agriculture, choisi, vous le comprenez bien, parmi le jury dont je vous ai cité les noms précédemment. Le Grand Prix Agriculture est attribué à Costa Gavras, qui est un cinéaste bien connu, qui est né en 1933 dans une famille d'origine russe et qui a fait beaucoup de films. On se rappelle de Z, on se rappelle de Compartiment Tueur, on se rappelle d'Un homme de trop, on se rappelle surtout de L'aveu, hein, qui est le récit autobiographique, d'Arthur London, ancien ministre des Affaires étrangères de Tchécoslovaquie, et qui a dénoncé les excès du stalinisme. Donc ce premier Grand Prix, cette distinction Grand Prix Agriculture, sera remise à Costa Gavras. Le Grand Prix Média sera remis à Frédéric Lenoir pour ses ouvrages qui mettent toujours en valeur la spiritualité. Philosophe, sociologue, historien des religions, chercheur associé à l'école, des hautes études en sciences sociales, depuis septembre 2009, il produit et anime une émission hebdomadaire, consacrée à la spiritualité sur France Culture, Les Racines du Ciel. De 2004 à 2013, c'était un moment très important, il a dirigé la rédaction d'un magazine très intéressant qui s'appelle Le Monde des Religions, qui est un bimestriel qui appartient au groupe Le Monde et qui offre une approche à la fois laïque et culturelle du fait religieux. Frédéric Lenoir est écrivain, il est auteur d'une quarantaine d'ouvrages, essais, romans, contes, encyclopédies, qui sont vraiment très très connus et qui sont traduits dans une vingtaine de langues, et qui ont été vendus à plus de 4 millions d'exemplaires. Le Grand Prix est économie, parce qu'il y a plusieurs catégories, comme je vous l'oubliais, le Grand Prix économie est attribué à Anne-Sophie Level pour son engagement dans la création de nouveaux circuits économiques de développement durable. Alors ces prix, c'est non seulement pour récompenser une œuvre, hein, comme celle de Costa Gavras, mais non seulement, mais également et surtout pour mettre en lumière des travaux de jeunes économistes ou sociologues, ou comme Anne-Sophie Novel, qui a 32 ans, hein, et qui a vécu son enfance dans une petite ville de Bourgogne avant de partir pour Bordeaux. Elle est titulaire d'un doctorat en sciences économiques, blogueuse, journaliste, et elle a constaté que dans le sujet du locavorisme, dont elle partageait les idées, il était souvent évoqué dans les médias sans faire l'objet d'un ouvrage, et c'est ainsi qu'elle s'est lancée dans la création du guide du locavore. Et dans ce guide paru en 2010, elle partage son expérience et ses astuces pour consommer local dans un rayon réduit à 200 km autour de chez soi. Une façon d'agir pour la préservation de l'environnement, de minimiser l'impact du mode de vie moderne et d'aller à la rencontre de son prochain en fréquentant les AMAP, ce qu'on appelle les marchés de producteurs locaux. Et dans son dernier ouvrage, qui s'appelle La vie chère, mode chère, S-H-A-R-E, mode d'emploi, elle donne au lecteur des pistes pour découvrir des modes de consommation alternatifs issus du mouvement de l'économie collaborative. Le grand prix de l'innovation sociale est attribué à Mathieu Bodin pour le travail mené à l'Institut des futurs souables. Alors Mathieu Bodin, il est à peine plus âgé que la personne dont on vient parler précédemment, Anne-Sophie Novel. Il a 35 ans, Mathieu Bodin. Il est historien et prospectiviste de formation. Il travaille sur le développement durable depuis plus de 15 ans. Il est l'ancien directeur pédagogique du Collège des hautes études de l'environnement et du développement durable. Et enfin, il enseigne ce prétexte à compréhension du monde contemporain depuis 10 ans. Depuis mars 2012, avec d'autres réinventeurs de monde, avec un grand R et un grand M, il a créé l'Institut des futurs souhaitables qu'il dirige. C'est un think tank, un do tank prospectif dont la mission est de réhabiliter le temps long, entre guillemets, dans les décisions présentes et dont l'envie est d'inspirer des futurs souhaitables. Enfin, le grand prix Pierre Simon, Science et conscience, est remis à Trinh Xuanh Tuang pour sa réflexion et ses études sur le rapport de l'homme à l'univers. Alors Trinh Xuanh Tuang est un des tout meilleurs astrophysiciens contemporains, hein, qui est né en 1948 à Hanoï. Depuis 76, il est professeur d'astrophysique à l'Université de Virginie, à Charlestonville, et partage son temps entre les États-Unis et la France. Et il fait à Jean-Michel Dardour le grand plaisir, j'allais dire le grand honneur, de venir à Paris le 2 juin pour recevoir son prix. Spécialiste internationalement reconnu de l'astronomie extragalactique, hein, extérieure à la Voie lactée, il est l'auteur de plus de 230 articles sur la formation et l'évolution des galaxies, en particulier celle des galaxies naines et sur la synthèse des éléments légers dans le Big Bang. Ces articles font référence dans le monde entier. Par ailleurs, il donne un cours à l'Université de Virginie qu'il a lui-même baptisé Astronomie pour les poètes. En voilà un bel objectif. Astronomie pour les poètes. Les étudiants non scientifiques ont ainsi le plaisir de découvrir les merveilles de l'univers. Parallèlement à son travail de chercheur et de professeur d'université, il mène par ses livres et ses conférences une œuvre de diffusion de la connaissance scientifique auprès du grand public. Il est l'auteur de très nombreux ouvrages exprimant avec clarté, c'est important, c'est pas toujours simple, la vision complexe et subtile d'un scientifique sur l'univers et sur la place de l'homme dans le cosmos. Tous ses livres sont écrits en français, traduits en de nombreuses langues, et ils ont tous rencontré la faveur d'un large public, contribuant ainsi au rayonnement de la langue française dans le monde francophone. Conférencier apprécié, il est invité dans le monde entier, et il faut noter que la plupart de ses conférences sont données en langue française. Et enfin, dernier prix, le grand prix spécial du jury de franc-maçonnerie et société est remis à Mona Ozouf pour son engagement dans l'entrée de Pierre Brossolette au Panthéon. On se rappelle que Mona Ozouf a été l'organisatrice à l'Assemblée nationale du grand colloque, de la grande conférence avec le fils, la fille, les petits-enfants de Pierre Brossolette pour militer pour l'entrée de Pierre Brossolette au Panthéon. Historienne, philosophe, spécialiste de la Révolution française. On se rappelle évidemment de sa collaboration étroite avec François Furet pour remettre en cause parfois les mythes de la Révolution. Mona Ozouf, elle est actuellement directrice de recherche au CNRS et membre du Centre de recherche politique Raymond Aron, j'ai des problèmes d'élocution, à l'École des hautes études en sciences sociales. Elle est l'auteur d'une œuvre abondante, dont Composition française, retour sur une œuvre bretonnienne en 2009, récit autobiographique, ou La cause des livres en 2011, et tout récemment, Jules Ferry, La liberté et la tradition chez Gallimard. Mona Ozouf a été présidente, évidemment, du collectif Pierre Brossolette pour le rapatriement de ses cendres au Panthéon.
Et puis je voudrais ajouter
Marie-Françoise Blanchet.
Mona Ozouf avec ce merveilleux livre qui s'appelle Les mots des femmes.
Tout à fait.
C'est un livre absolument remarquable.
Et Mona Ozouf est en effet une personne tout à fait remarquable, attachante j'allais dire, mais intellectuellement tout à fait remarquable et qui a mené des travaux d'historien, je pensais à François Furet justement, sur les travaux sur la Révolution, qui sont tout à fait remarquables. Merci à Jean-Michel Dardour, pardon, pour cette chronique que j'ai lue, parce qu'il fallait bien la lire. Et nous revenons directement avec Frédéric Vincent sur l'imaginaire maçonnique, le réenchantement du monde, qui sont nos thèmes de ce soir, mais on n'était pas loin avec les grands prix franc-maçonnerie et société, quel monde nous voulons et quel réenchantement du monde, et on a vu à la fois le jury qui a choisi les prix et les lauréats de ces distinctions. Frédéric Vincent, comment on réenchante le monde au XXIe siècle et quel rapport avec la franc-maçonnerie?
En 30 secondes et 3 mots.
30 secondes, 3 mots, 2 idées, 15 idées. Frédéric Vincent, voilà. Tout de suite.
En 3 mots, peut-être...
Je suis ton père.
mon père s'appelle Chewbacca. je suis terrorisé. Donc, peut-être en 3 mots... Non, mais... N'allons pas trop vite, mais ce qu'on disait tout à l'heure, et je continue sur ma lancée, sur la nécessité aujourd'hui... Oui. D'adopter une nouvelle logique, un nouveau paradigme qui prendrait en compte à la fois ce principe de d'alliance et à la fois ce principe de relance nécessaire à toute construction humaine, sociale ou culturelle. Alors je voudrais saluer les travaux de notre ami, notre frère Marcel Boldebal. Frère belge par excellence.
Ils sont pas tous mauvais.
Ils sont pas tous mauvais, au contraire. Et Marcel Boldebal.
Il est pas espagnol, il est peu plus.
Marcel Boldebal.
Le remarquable.
Marcel Boldebal a eu ce génie de proposer deux notions, en tout cas qui me sont chères en tant que sociologue, c'est la notion de reliance et la notion de déliance. Hein, la notion de reliance qu'on peut comprendre comme le principe d'harmonisation des contraires, hein, comme l'idée de réunir ce qui est épars. Et le principe
ça nous dit quelque chose, ça, je sais pas.
Ça nous dit quelque chose. Et l'idée de déliance qui serait justement fondée sur la nécessité de séparer les choses. Il dit par ailleurs que le principe des déliances, c'est pas un principe qui est mauvais en soi, puisqu'il appartient à l'être humain. Mais une déliance peut être reliante comme elle peut être déliante. Ça aussi, c'est intéressant.
Ouais.
Et une reliance aussi peut être déliante comme elle peut être reliante. Ça amène, bien sûr, au questionnement. En tout cas, ce que dit Boldebal rejoint tout à fait le travail remarquable d'Edgar Morin, de notre sociologue français éminent, hein, Edgar Morin, sur sa pensée complexe. Edgar Morin, à la suite, je pense, d'éminents chercheurs comme Gilbert Durand, comme Mircea Eliade, comme Jung, comme Joseph Campbell, comme ce qu'on a cité tout à l'heure, à cette idée que...
Personnellement, j'ai toujours un petit problème avec Mircea Eliade, mais c'est personnel.
Bon, c'est peut-être politique. je parle pas de...
Non,
mais c'est pas de politique. Mais c'est vrai que
John Campbell, qui est moins connu en France, c'est tout à fait remarquable.
Jung me va mieux. Mais Frédéric Vincent.
Campbell est dans la continuité des chercheurs. Il faisait partie lui-même du Cercle Eranos. Je rappelle que le Cercle Eranos... se réunissait en Suisse à Ascona, et c'était un cercle d'éminents chercheurs qui étaient un petit peu en marge des bien-pensants universitaires, donc qui osaient penser l'importance des symboles et des mythes dans notre société aujourd'hui.
Vu comme déviant par les éminents universitaires en question et décrédibilisés autant que c'est possible, oui.
C'est pour ça qu'Eliade a eu beaucoup de difficultés à trouver une université d'attache. Il a dû s'exiler à Chicago pour pouvoir enseigner l'histoire des religions. Ce qui est intéressant, c'est ces chercheurs, c'est justement leur questionnement qui se porte essentiellement sur l'homme et ses symboles et ses mythes. Et en tout cas, c'est ce que j'essaie de perpétuer. En tout cas, c'est dans ce sens-là que j'essaie de poursuivre mes recherches. D'ailleurs, le bouquin que j'écris sur le réenchantement initiatique du monde se base essentiellement sur une intuition de Mircea Eliade, qui disait que la modernité pouvait se comprendre comme la disparition des rites initiatiques. Malgré tout, ces rites initiatiques peut-être survivent à travers la littérature
sous
une autre forme imaginaire. C'est pour ça que j'ai proposé la notion d'imaginaire initiatique. Comme quoi, peut-être aujourd'hui, puisque dans d'autres sociétés, dans les sociétés tribales, on ne peut pas éviter le rite de passage. Il est obligatoire. Il fait partie de la vie sociale dans son entièreté.
Alors, en parlant de rite, par rapport à Mircea Eliade, moi, je vous conseille plus vivement encore la lecture du livre de Frédéric Vincent. Il y a des titres qui sont, pour moi, qui ont été parfaitement éclairants et révélateurs. La réalité fantastique du quotidien, le dédale imaginaire, dit-il, ou l'errance initiatique. J'aime beaucoup l'errance initiatique qui commence, quand on parlait de rite de passage, par l'ordali et l'amour du risque. Ça, c'est fantastique. Ça, c'est fantastique.
Et moi, j'ai un souci avec Marie-Françoise les rites de Blanchet. Passage. Les rites de passage dont on parle dans les sociétés anciennes, etc., sont toujours des rites de passage liés à la biologie. Le passage à l'âge adulte, le passage à la possibilité pour l'individu mâle ou femelle de procréer. Et c'est complètement différent. En maçonnerie, on n'est plus du tout dans cette notion-là. Et donc, on n'est pas dans des rites de passage. Nos rites initiatiques sont des rites qui visent à humaniser l'humain sans s'occuper de passage d'un groupe à un autre au sein de la société.
Alors, rites de passage, je ne sais pas.
Les rites de passage,
Il y a quand même, des rites, il y a quand même des passages, il y a quand même des.
Mais ça n'a rien à voir avec ces rites de passage des sociétés primitives.
Marie-Françoise Blanchet.
Où il est toujours question d'un passage, d'une étape où l'être humain n'est pas en possibilité de procréer, à l'étape où il va pouvoir procréer. Et que ce soit pour le garçon ou pour la fille, avec des marques corporelles, avec tout ce qui est attaché à une biologie, en fin de compte.
Le souci, c'est
Frédéric Vincent, avant une petite pause musicale.
Je pense qu'il y a un effet de retardement. Comme les rites initiatiques, aujourd'hui, ne sont plus obligatoires à l'âge de l'adolescence.
Oui.
À un moment donné, on crée un refoulement.
Ouais.
Et malheureusement et heureusement, le rite maçonnique libère quelque chose dont l'individu a foncièrement besoin.
Dont
il n'a pas conscience. C'est-à-dire ce passage, bien évidemment, de l'âge... Il n'y a pas d'adolescence, de toute façon, dans les sociétés tribales, puisqu'on passe de l'âge enfance à l'adulte. Je pense que c'est cette réalisation-là qui est intéressante. Ça veut dire que, tout d'un coup, on sait qu'on a besoin, à un moment donné, de trouver de la maturité, de la sagesse. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure d'Iram, la sagesse, on a besoin de trouver. On la trouve pas à l'école, on la trouve pas à l'université. Donc où est-ce qu'on la trouve en Occident ? C'est cette question que je me pose.
Mais est-ce que l'homme et la femme ne sont pas créés en même temps ? Parce que avant, il y avait quelque chose d'informe qui n'existait pas, qui était la dame. Et est-ce que Ish n'est pas créé en même temps que Isha ? Et le masculin et le féminin sont créés par le même processus créateur en même temps, parce qu'avant... Il y avait cette masse un peu confuse de la dame, mais la dame c'est la terre et l'homme n'est-il pas créé en même temps que la femme, Ish et Isha. Avant la dame c'est une matière un peu
mais il se décrète l'homme parce que quand tu vois Igor et Grishka.
Non.
Alors, je propose.
On a des doutes, hein.
Je propose.
De la musique, de la musique.
Voilà, je propose, avant d'aller plus loin et de retrouver Frédéric Vincent, une nouvelle pause musicale. Alors, je ne sais toujours pas ce qu'Eric nous a
mais c'est démocratique, il n'y a pas de coup de menton. Ouh, voilà. Aïe, tu me l'as mis dans le Igor.
C'est le cousin de BP.
Ah, le cousin de BP, mon cher Eric. Tout de suite de la musique.
It's a long way to go. I really got to know.
Merci à Eric pour ce fantastique morceau. C'était Papa Choubi et The Fight Is On. Et tout de suite, la chronique des livres. Je vais vous parler d'un certain nombre de livres qui me semblent particulièrement intéressants. Tout d'abord, les livres dont je me suis servi, dont nous nous sommes servis pour préparer cette émission, et bien entendu en premier lieu, le réenchantement initiatique du monde, des mythes et des hommes, de Frédéric Vincent, ici présent à côté de nous, édition d'Etrade, qui est arrivé dans les bacs depuis mars 2014 et qui vaut la modique somme, parce que vous pouvez bien le dépenser, de 23 €. Ensuite,
avec une préface de Robert Klein. Hein,
avec une préface de Robert Klein. C'est vrai. C'est
l'adorable vrai. Robert Klein.
Tout à fait. Ensuite, je me permets de vous recommander une nouvelle fois La franc-maçonnerie, histoire et dictionnaire, un magnifique ouvrage sous la direction de Jean-Luc Maxence, et avec, en ce qui nous concerne ce soir, un certain nombre d'articles particulièrement intéressants qui sont les sources antiques de la transmission initiatique en franc-maçonnerie, art classique de la mémoire, par Charles Jameux, qui m'est très cher. C'est vraiment un très bel article. Bonsoir, Charles.
C'est le numéro 100 des points de vue initiatiques.
Oui, exactement.
J'en ai un souvenir absolument ébloui.
Oui, l'art de la parole, par Charles B. Jameux, qui est un de nos derniers surréalistes, Charles Jameux. Mythes et psychologie des profondeurs vers la mythanalyse, par Michel Cazenave. La fonction des mythes et des rites en franc-maçonnerie, par Simone Vierne. Le réenchantement du monde en franc-maçonnerie, dont nous avons parlé tout à l'heure, par Michel Maffezoli. Le patrimoine maçonnique, par Stéphane Secaldi. Surréalisme et franc-maçonnerie, par Jean-Pierre Lassalle. Le rôle de l'imaginaire dans les sociétés initiatiques. Les structures anthropologiques de l'imaginaire maçonnique, par Frédéric Vincent, qui est avec nous ce soir et qui a signé un magnifique article dans La franc-maçonnerie, histoire et dictionnaire, sous la direction de Jean-Luc Maxence. Je ne veux pas oublier non plus Bande dessinée, imaginaire et franc-maçonnerie, par un ami qui m'est très cher, Joël Grégonia, qui est de la Grande Loge de France, et Manuel Picot, 328 pages, publié par Dervy en septembre 2013, 26 €.
Alors, spécialiste ensuite, de Hugo Pratt.
Joël Grégonia, qui est vraiment un type super.
C'est moins Pratt qu'au riche.
Alors je vais vous parler très vite de l'Écosse à l'écossisme, bien entendu, de Louis Trébuchet, parce que je vais vous annoncer que le tome 2 de l'Écosse à l'écossisme, je l'ai reçu avant de venir, donc j'en ai dévoré quelques pages, mais pas assez. Le tome 2, en deux parties, évidemment, 1743-1761, Floraison des grades écossais, de Louis Trébuchet, qui est vraiment le spécialiste du rite écossais ancien accepté, actuellement, qui fait un travail formidable, avec une préface de Claude Collin. Claude Collin, qui est le très puissant souverain grand commandeur du Suprême Conseil de France, aux éditions Ubik, ça vient de sortir. Je vous le dis très, 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 très calmement, précipitez-vous, bien que le premier tome fait 202 pages, le second tome fait 1010 pages pour 80 €. Vraiment, vous ne le regrettez pas, ça peut paraître cher, mais de l'Écosse à l'écossisme, tome 2, je ne peux que vous recommander très vivement la lecture de cet ouvrage de Louis Trébuchet. Ensuite, je veux vous parler, et je vous en reparle, et ça fait au moins la deuxième fois que je vous en parle, et bah tant pis, de L'Unique et l'Initié, franc-maçonnerie et anarchisme, de Christophe Bitteau, publié aux éditions Théolib, qui sont les éditions du protestantisme libéral. Christophe Bitteau, qui avait fait un superbe bouquin, j'espère qu'il sera bientôt réédité, sur Élimet, qui est l'un des fondateurs de la Grande Loge symbolique écossaise, qui était au Conseil fédéral avec Gustave Mesureur pendant des années, qui a été membre de la loge Les Trinitaires numéro 3, une loge, je crois, créée en 1821 de la Grande Loge de France, qui ne s'appelait pas encore la Grande Loge de France, mais qui est l'une des loges les plus anciennes de la Grande Loge de France, et on peut le dire, Christophe Biteau a été l'un des responsables, on dit vénérable maître, je crois, de cette loge, et il a écrit un superbe bouquin sur Elie May, donc l'unique et l'initié franc-maçonnerie et anarchisme de Christophe Biteau. Je ne peux résister à vous parler d'Eugène Potier. C'est à la page 108 du livre de Christophe Biteau. L'auteur des paroles de l'international Eugène Potier, en exil à New York, pour échapper à la répression versaillaise, rejoindra une loge de proscrits, les égalitaires, à New York. Voici la lettre qu'il adresse au président Elie May. Oui, le vénérable maître de la loge des égalitaires est Elie May, et qui sera le vénérable maître, le député de la loge, les Trinitaires de la Grande Loge de France, et qui siégera avec Gustave Mesureur. Le 2 décembre 1875, citoyen, je demande à participer aux travaux de la maçonnerie et à être admis dans votre loge. Je sais qu'elle est composée d'un groupe de libres penseurs qui, ayant fait table rase des traditions et ne reconnaissant rien de supérieur à la raison humaine, emploie consciencieusement la leur à la recherche de la vérité et de la justice. Je crois comme vous que le bonheur de l'humanité ne peut avoir d'autre base. La science, dégagée de toute entrave dogmatique, marche de jour en jour à la découverte des lois de notre nature et prépare ainsi le code social. L'humanité, pour entrer dans sa voie normale, doit se créer à notre propre image, c'est-à-dire devenir comme l'homme, une et multiple, une par l'action, multiple par ses organes. Cette transformation de l'universel, conflit en harmonie avec un grand H universel, ne peut s'opérer que dans une phase d'égalité réelle, non pas d'égalité mensongère de droit, mais égalité de lumière et de bien-être, nous dit Eugène Potier. Je ne cite pas tout. C'est à Paris, le dernier paragraphe, joue dans les derniers jours de la lutte, quand j'ai vu, au milieu des transports d'enthousiasme, le spectacle grandiose de la maçonnerie adhérant à la Commune et plantant ses bannières sur nos murailles éventrées d'obus, c'est alors que je me suis juré d'être un jour un des compagnons de cette phalange laborieuse. Je me présente à son chantier, embauchez-moi, Eugène Potier, 238 East 30 Street, rue numéro 30. C'est signé Eugène Potier, c'est le 2 décembre 1875, et il sera initié par Elie May. Enfin, comment ne pas dire toute la gratitude que nous devons à la franc-maçonnerie illustrée pour les nuls de et par Philippe Benamou, et enfin les grands textes de la franc-maçonnerie décryptée de Laurent Kupferman et Emmanuel Pierra, qui ne quittent jamais nos genoux, j'allais dire, qui sont nos ouvrages de référence. Alors, pour terminer, il nous reste encore 10 minutes, et je passe tout de suite la parole à Frédéric Vincent avant que BP nous lise la chronique de Philippe Benamou. Philippe ne peut pas être avec nous ce soir. Un tout petit problème technique nous a empêché de diffuser.
Parce qu'il est aux Imaginales.
Mais parce qu'il est aux Imaginales d'Épinal, avec Alain-Jacques Lacot, avec Jean-Luc Maxence et bien d'autres de nos amis. BP nous lira la chronique de Philippe Benamou. Mais tout de suite, Frédéric Vincent peut-être.
Alors, est-ce que deux fois BP avec les conclusions.
Est-ce que ce sera les conclusions de Frédéric Vincent? Non. Puisqu'en plus, nous aurons BP pour la chronique de Philippe Benamou, puis pour les conclusions de l'orateur. Frédéric Vincent, peut-être, vos derniers mots pour aujourd'hui sur l'imaginaire maçonnique et le réenchantement du monde.
Comme on disait tout à l'heure, cette nécessité aujourd'hui d'aborder la pensée analogique, ce besoin peut-être de repenser l'équilibre entre l'ordinaire et l'extraordinaire de l'existence sociale. J'ai peut-être en mémoire, parce qu'on dit souvent que, enfin c'est Nietzsche qui disait souvent que tout écrit est autobiographique. Et Bon, si j'ose me confesser un petit peu et parler de moi-même et en tout cas de ma propre vie, écrire sur le réenchantement initiatique du monde, ce n'est pas anodin.
Non.
Surtout venant d'un homme profondément pessimiste, angoissé, très nerveux et qui doit beaucoup.
Y a-t-il des optimismes non angoissés?
Je ne sais pas. En tout cas, en ce qui me concerne, je dois beaucoup à mes parents, à ma mère notamment. Je salue, je sais qu'elle écoute. Et j'ai souvenir de mon enfance et d'avoir eu la chance, en tout cas, de baigner dans un imaginaire fantastique très, très prégnant. Et dans cette enfance, il y a un ouvrage, un film qui m'a profondément marqué, un film qui s'appelait L'Histoire sans fin, Never Ending Story.
J'ai failli la mettre, la musique de Limahl.
Et je ne peux m'empêcher de vous lire un petit passage.
Frédéric.
Donc, c'est l'histoire, bien sûr, d'un jeune enfant qui s'appelle Bastien, hein, et bien sûr qui a beaucoup de difficultés à vivre son existence, notamment par le fait qu'il vient de perdre sa mère et qu'il se trouve un petit peu orphelin, et le fait d'affronter le monde difficile de l'école, etc. Et le roman s'ouvre sur ces quelques notes. Donc Bastien en l'occurrence, n'avait aucun goût pour les livres qui racontaient sur un ton maussade et pessimiste les événements ordinaires de la vie ordinaire menée par des gens ordinaires. De l'ordinaire, il y en avait bien assez dans la réalité. Pourquoi aurait-il dû aller encore en chercher dans les livres? D'ailleurs, il avait horreur de se rendre compte qu'on voulait l'amener à quelque chose. Et dans ce genre de livre, il fallait toujours que, d'une manière ou d'une autre, on vous amène à quelque chose. Les préférences de Bastien, aller aux livres captivants ou drôles, ou encore à ceux qui lui permettaient de rêver, des livres où des personnages fictifs vivaient des aventures fabuleuses et qui permettaient d'imaginer tout ce qu'on voulait.
C'est beau, ça.
C'est très beau.
Magnifique.
Et je trouve, en tout cas, c'est une belle manière, peut-être, de révéler ce qu'on vit en maçonnerie. Par rapport à ce qu'on nous apprend à l'université. J'ai eu beaucoup de plaisir, hein. Enfin, je ne vais pas cracher dans la soupe, j'ai eu beaucoup de plaisir à développer ma pensée logique, à pouvoir m'accomplir en tant que chercheur, mais je reconnais que la pensée analogique, en tout cas tout ce qui est de la dimension du rêve, de l'imagination, ça m'a quand même beaucoup apporté sur le plan moral, sur le plan humain tout court. Sur l'épanouissement
de chercheur, es-tu devenu trouveur?
Et je trouve que j'ai un reproche à
cheminons déjà
à faire la plupart des universitaires.
Frédéric Vincent,
c'est vrai que on a rarement l'occasion d'oser, en tout cas de nous livrer à notre propre vécu. Et alors que ce qui motive une recherche, finalement, c'est quand même une quête. Qu'on s'appelle Pierre Bourdieu, qu'on s'appelle Michel Foucault ou Jean-Paul Sartre, on est quand même motivé par quelque chose de personnel. Hein. Moi, en tout cas, en l'occurrence, j'ai toujours été porté sur des questionnements bien précis depuis mon plus jeune âge, sur mon rapport à l'angoisse de mort, sur cette difficulté que j'éprouvais, en tout cas, à me trouver et à me situer dans mon environnement social. Et
Frédéric Vincent fait bien d'en parler. Je me permets juste une incise dedans pour vous recommander vraiment très fort le hors-série spécial numéro 19 d'un magazine qui s'appelle Sciences Humaines, que vous trouvez dans toutes les bonnes librairies, et qui est consacré à Michel Foucault, qui est un numéro anniversaire, mai-juin 2014, vraiment Sciences Humaines hors série, sa vie, son œuvre, ses héritiers, bilan critique, Michel Foucault, numéro anniversaire, vraiment, procurez-le vous, c'est un numéro exceptionnel, je l'ai dévoré, du premier au dernier article en une nuit, c'était vraiment, voilà, Michel Foucault, numéro anniversaire, Sciences Humaines hors série, spécial numéro 19, mai-juin 2014, je crois que ça coûte moins de 9 euros. Frédéric Vincent. Et puis BP va nous lire la chronique de Philippe Benhamou. Frédéric Vincent, pour quelques mots encore.
Donc dans le même sens, c'est vrai que c'est pas toujours évident quand on est chercheur de livrer un petit peu une part de nous-mêmes, mais je crois que c'est aussi
la démarche maçonnique.
Ça fait partie de la démarche maçonnique, ce qui fait pas partie de la démarche scientifique. Et c'est là où je tiens à rendre hommage à Gilbert Durand, que je n'ai pas connu physiquement, que j'ai connu indirectement par voie postale ou courriel. Gilbert Durand m'a fait comprendre une chose importante, c'est que effectivement la recherche ne peut pas se distinguer de son vécu, de notre vécu. Et je pense, en tout cas, ça a été une de mes contributions, un de mes hommages à Gilbert Durand, c'est de montrer que lui-même, en tant qu'universitaire, avait toujours essayé de trouver ce lien entre la recherche et entre le vécu. Et quand on lit attentivement ses recherches, on ne peut pas ne pas penser à son vécu de résistant.
C'est vrai.
D'ancien résistant, une personne qui s'est investie, qui a sacrifié sa vie pour la patrie, qui croyait en des symboles forts.
Et peut-être ça nous rappelle un peu Pierre Rossolette, quand même.
Pierre Rossolette et d'autres. Edgar Morin aussi était résistant. Et je pense que c'est peut-être ce décalage de aujourd'hui, enfin, en tout cas, le regret que j'ai, ou en tout cas la critique que je fais aux universitaires, c'est justement d'avoir cette déconnexion. Et c'est pareil, c'est valable pour les hommes politiques. C'est avoir cette déconnexion avec la vie.
Et c'est pour ça que je crois qu'il était important. Et comment dire, je crois qu'un certain nombre l'ont bien compris. Le 25 juin prochain, le grand temple de la Grande Loge de France, qui s'appelle Grand Temple pour l'instant, le 25 juin prochain s'appellera Grand Temple Pierre Brossolette. Parce qu'il était important d'avoir comme image, comme symbole de l'engagement jusqu'à l'épreuve suprême. Jusqu'où on va pour garder le silence ? Jusqu'où on va pour garder ses serments ? Pierre Brossolette est allé jusqu'au bout. Alors est-ce que nous, on irait jusqu'au bout ? J'en sais fichtre rien. Pierre Brossolette qui a été... qui a été initié en 1927, très jeune, à la loge Émile Zola, qui existe toujours, à la Grande Loge de France. Et c'est vraiment un modèle, hein, le maître maçon dans toute sa magnificence, j'allais dire. Alors je passe tout de suite la parole à BP pour un exercice très difficile. Premièrement, il va nous lire la chronique de Philippe Benhamou.
Ah, enfin.
Et deuxièmement, il se livrera à un exercice particulièrement difficile et périlleux, qui est celui des conclusions de l'orateur de cette émission. Donc, BP pour la lecture déjà de la chronique de Philippe Benhamou, qui, nous le rappelons, est aux Imaginales maçonniques d'Épinal, avec Alain-Jacques Lacot, avec Jean-Luc Maxence et avec d'autres. Et je crois d'ailleurs, bon savoir, mais ça c'est mon petit doigt qui me le dit, que peut-être notre ami Philippe aura une récompense aux Imaginales maçonniques, mais ça ce n'est que mon petit doigt qui le dit. BP, pour lire la chronique de Philippe Benhamou.
Alors pardon, Philippe, si je n'ai pas ta voix si sensuelle, comme le disent toutes nos auditrices. Mon très cher Laurent.
Philippe fait craquer toutes les auditrices.
Voilà. Mon très cher Jean-Laurent, mes très chers auditeurs. C'était il y a quelques années dans ma loge bleue, ma loge symbolique, ma loge versaillaise de la Grande Loge de France, la loge où j'ai été initié et que je fréquente toujours régulièrement. C'était il y a quelques années donc, et un jeune frère qui devait être apprenti ou compagnon, je ne me souviens plus très bien, nous présentait un travail sur le thème du delta rayonnant. Je rappelle aux plus ignorants d'entre nous que le delta rayonnant est, dans les loges travaillant au rite écossais ancien accepté, le symbole du grand architecte de l'univers, et qu'il est matérialisé dans la loge par un triangle, souvent éclairé, placé au-dessus de la tête du président de l'atelier, et triangle au milieu duquel est dessiné un œil. C'est l'œil de la conscience, l'œil qui voit tout. Bref, un triangle et un œil ainsi placés. Rien de mieux pour exciter notre imagination et faire de belles planches. La franc-maçonnerie n'impose aucune limite à la recherche de la vérité. Oui, aucune limite. Mais lorsque le jeune frère en question a centré son travail sur les deux lignes horizontales qui encadrent l'œil, une au-dessus et l'autre en dessous, nous avons tous eu des doutes et donc levé les yeux vers le delta en question, pour nous rendre compte qu'effectivement deux lignes apparaissaient bien au centre de ce triangle, mais que ces deux lignes n'étaient que la marque, que la limite du plexiglas sur lequel avait été dessiné l'œil. Certes, les deux lignes existaient, mais en aucun cas, elles n'apparaissaient dans le rituel. Là, je me souviens que nous nous sommes tous dit, que peut-être la franc-maçonnerie devrait imposer quelques limites à la recherche de la vérité.
Et non.
Les groupies sont chaudes, Philippe. Oui, sauf que le frère en question était en train de nous présenter un travail intéressant, très cohérent et même passionnant. En effet, il avait articulé son travail sur les nombres 1, 2 et 3. 1, l'œil. 2, les deux lignes horizontales qui soulignent et surlignent cet œil. Et 3, le triangle par ses trois côtés, puis le retour au 1 par l'unité qui se dégageait de cette figure. De plus, le frère soulignait l'admiration qu'il avait devant la grande cohérence qui se dégageait du corpus symbolique mis à sa disposition, sans savoir qu'il avait incorporé dans ce même corpus un élément qui n'en faisait pas partie. Ce qui était admirable dans son travail, c'était la recherche de sens. C'était sa tentative réussie, il faut le souligner, de donner du sens à des éléments qui n'en avaient peut-être pas, et à dégager de ce sens, de cette cohérence, une organisation du monde matériel et du monde de l'esprit, et de l'articulation entre ces deux mondes. Notre imaginaire est interpellé, sollicité, stimulé par le monde symbolique et mythique, proposé par la franc-maçonnerie. L'imaginaire est dans une sorte de paradoxe, puisqu'il s'agit pour chacun de chercher ce que représentent les symboles, et ce travail se fait sans limite. Et, en même temps, les différents symboles maçonniques, et pour chaque degré, sont organisés de façon logique. Pourtant, tout comme vous, certainement, j'ai suivi de nombreux travaux symboliques à divers degrés à chaque fois. Une fois oubliées les interprétations que je dirais classiques ou extraites de divers dictionnaires de symboles, j'y ai trouvé quelque chose de nouveau, d'intéressant, un point de vue étonnant, une façon d'associer les éléments entre eux que je trouvais audacieux. Certes, la combinatoire est immense, mais elle est réduite par l'organisation même du corpus symbolique. Ainsi, l'équerre et le compas sont associés, mais pas la lune et le fil à plomb, ni le soleil et l'acacia, bien que. Mais à chaque fois, par l'imagination du frère ou de la sœur qui planchait, par le lien qu'il faisait avec son vécu, son expérience, son espérance, il y avait un sens. Il y avait du sens, cela faisait sens. La franc-maçonnerie nous titille l'imaginaire, le nôtre et l'imaginaire collectif d'une loge. Surtout, là où le rite et les mythes qui y sont racontés ne sont pas précis, peut-être par maladresse, peut-être pour nous stimuler, peut-être enfin pour nous faire progresser, pensant que la réponse est au degré suivant. Ainsi, concernant le meurtre d'Hiram, Hiram s'est-il défendu, ou au contraire s'est-il laissé tuer, se sacrifiant ainsi pour placer les hommes dans une dynamique de recherche? Quel est le sens de la pierre cubique à pointe sur le tableau du premier degré du rite écossais ancien et accepté, alors qu'elle n'apparaît pas dans le rituel de ce même degré? Quel est ce mystérieux chien qui accompagne l'étranger censé nous dévoiler un message dans un degré ultérieur? Toutes ces questions, on le sent bien, sont des sources inépuisables de sens, de liens, de révélations qui n'ont de vérité qu'à l'instant où elles sont prononcées, et pour celui qui les prononce, mais qu'importe si elles sont fausses demain. L'imaginaire se joue du temps et de la logique. Mais, quelquefois, l'imaginaire prend le pouvoir. Je ne parle pas des lapsus, par exemple lorsque le vénérable, devant dire « comme je l'annonce au frère qui décore les colonnes », se plante et clame à haute voix « comme je l'annonce au frère qui déconne les colonnes ». J'ai connu pire moi aussi. Non pas de ces lapsus, mais de ces petits moments de grâce qui naissent d'une erreur, d'une incompréhension. Ainsi, c'est une autre histoire que j'aime raconter. Et tant pis si j'y vais dévoiler quelques lignes du rituel d'initiation au premier degré du rite écossais ancien et accepté. Ce qui va me valoir les foudres des vieux grincheux, se pensant défenseur d'un rite déjà largement défloré. Tant pis donc. C'était donc au cours de l'initiation, le vénérable maître s'adresse au candidat et lui demande « Monsieur, quel est votre dessein en vous présentant dans ce temple maçonnique ?» Et on dit que les femmes ne sont pas présentes dans le temple.
Si, si.
Souvent, les réponses des candidats portent sur le désir de se perfectionner, l'envie de partager, de rencontrer d'autres personnes, avec faire un bout de route, etc. Bref, rien de bien original. Et le candidat répond souvent ce qu'il pense que la loge a envie d'entendre.
Là,
le candidat réfléchit, hésite, répète quelques mots de la demande. Quel est votre dessin? Il répond un triangle, non un carré, non plutôt un cube. Oui, c'est ça, mon destin est un cube. Mon dessin est un cube. Que s'était-il passé dans la tête de ce candidat à l'initiation? Personne ne le saura jamais, mais une chose est sûre, c'est que personne ne lui a jamais indiqué son erreur, et tout le monde s'est projeté dans ces deux homonymes, et tout le monde a imaginé ce candidat, à juste titre d'ailleurs, comme un cube, une belle pierre cubique que son imaginaire avait projeté dans ce temple, et qu'elle ne finirait pas de tailler pour la rendre conforme à sa destination. Salut Jean-Louis, Jean-Laurent. Ah, mais tiens, en fait, justement, rien n'est dit sur cette destination. À quoi peuvent-elles bien servir toutes ces belles pierres taillées qui nous constituent ?
Eh oui, à quoi peuvent-elles donc bien servir ? Ce sera l'objet d'une autre chronique. Et je rappelle que vous pouvez trouver toutes ces chroniques vraiment très bien écrites, magnifiques, de Philippe Benhamou sur son site personnel, puisque Philippe Benhamou a un blog depuis quelques mois qui s'appelle...
C'est un blog maçonnique.
Et c'est un blog maçonnique.
Oh, une fois, mais c'est normal qu'un Belge, il pense qu'il n'y a qu'un blog maçonnique une fois.
C'est un blog maçonnique.
C'est un blog maçonnique.
Le nom est protégé,
excuse-moi. Pas du tout.
Tu peux pas faire n'importe quoi.
C'est le blog maçonnique de Philippe Benhamou et qui s'appelle tout simplement Philippe Benhamou, son nom en entier, .blogspot.fr, c'est vraiment un régal. Allez sur le site de Philippe Benhamou, vous tapez dans Google évidemment Philippe Benhamou, et vous trouvez non seulement les chroniques qu'il fait ici, mais tous les articles qui sont, comme vous avez pu le constater, extrêmement bien écrits. Et pour conclure cette émission...
Mais il en manque une chose à tous ces articles extrêmement bien écrits.
C'est la voix de Philippe Benhamou.
C'est la voix de Philippe.
Oh, merci.
Mais que BP, je vais reconnaître quand même. Que BP,
ça va les filles.
mais Philippe Benhamou est un tombeur de toute manière. Voilà, elles sont toutes en extase devant la voix et les chroniques de Philippe Benhamou. Eh bien, pour conclure, deuxième exercice, toujours BP, deuxième exercice compliqué, les conclusions de notre orateur BP de la soirée danse grâce à Frédéric Vincent, à l'imaginaire et au réenchantement du monde. BP.
Alors, chaque fois, quand je vais conclure, j'ai peur de d'être obligé de divorcer, d'être chassé de mon obédience, etc. Donc, voyons.
C'est ce qui va t'arriver, ne t'inquiète pas.
Ce soir, nous avons essayé de faire preuve d'imagination pour vous enchanter. Ça commence bien.
Merci Frédéric.
Nous avons même voulu employer les grands moyens en voulant faire venir Francky Vincent pour vous enchanter.
Ah non, je ne cautionne pas ça.
Bon. Nous n'avons pas les mêmes moyens que certains Belges à la fraternité peu enchanteresse. Peut-être devrions-nous vous faire payer, chers auditeurs. Rassurez-vous.
Chez nous, tout est gratuit. Voilà. C'est gratuit.
Rassurez-vous.
Notre cœur est grand.
Rassurez-vous. Nous continuerons à maintenir notre parenthèse enchantée, gratuite. Sans moyens, nous avons fait venir le cousin éloigné de Francky, Freddy Vincent. Bien nous en a appris, car ce sont mes oreilles ce soir qui n'ont pas eu à déchanter. Bref, ce soir, Frédéric, tu es sorti du rang, si j'en crois ton livre. Ce soir, j'ai pris mon pied normal à côté d'un spécialiste du corps. Sans blaguer, ce soir... Une grosse partie de l'équipe de Deux Colonnes à la Une a préféré en rester au stade imaginal.
Et oui,
ce soir, une partie de Deux Colonnes à la Une a décidé de ne pas être sage comme une image d'Épinal. Bonjour à vous. Quel étonnement enchanteur. Marie-Françoise nous a donné la recette pour nous attirer les bonnes grâces des déesses qui hantent nos nuits. Chut, Dominique. Pour une initiation sans cesse renouvelée. Je commence à comprendre le sens enchanteur de ce mot. Chut, Dominique. Ensuite, l'émerveillement continue. Nous avons sollicité de nombreuses fratries, ainsi Alain et Jacques Lacot, pour nous expliquer les liaisons dangereuses qu'il existe entre la voie initiatique et les jeux de rôle, dont nous sommes les héros. Ainsi, nous passons du côté de la force obscure de la fabrique de Star Wars, à la gloire de la fabrique de Andy Warhol. Place à l'imaginaire. On nous apprend que c'est assez et qu'il faut céder à Jung, salut les frères Jung, et laisser parler le double spirituel qui est en nous. Quelle soirée merveilleuse! J'ai appris aussi ce soir que bien que seul, Kenobi est multiple. Surtout, qu'il tombe et s'en va en dehors de Star Wars. Il faut suivre. Ce soir, dans mon esprit, dans mon disque dur, avec quelques IRAM en plus, fournis par mon dealer préféré, un certain LK, hein, salut, c'est vraiment tourné manège enchanté. Néanmoins, c'est perdu ce soir, comme un autre cousin de notre invité, Frédéric, un certain David Vincent, Si j'analyse bien que
le petit doigt en l'air.
Si j'analyse bien que logiquement le réenchantement m'a saisi. Tout n'est qu'harmonie. Des contraires, homme-femme, la mort est une source de vie, homme-femme se mélange. Chut Dominique, c'est pas ce que tu penses. Pour trouver place dans le cosmos, vers l'unité. Bref, ça chauffe Marcel et coup de bol la balle, je la rattrape au bon, comme dirait Yoda. N'en déplaise à Jean-Laurent, dans cette odyssée, l'Eliade est le début du voyage vers l'imaginaire initiatique. C'est guidé par notre redoutable Philippe Benamou que j'ai compris que tous les dessins menaient au paradis. Cherchons-nous le paradis perdu ? Bref, je vous laisse la réponse. Je remercie d'ailleurs mon oncle et ma tante de m'avoir éclairé d'être gagnant. Oui, tonton et tataouine, ce soir. Vous avez compris, même sous l'œil de Delta, même sous l'œil de la loi, je me demande si le thème ce soir n'a pas un peu perdu l'orateur. Ne vous inquiétez pas. En bon écossais, l'orateur unique et initié ne va pas trébucher.
J'espère.
Là,
mon cher Louis,
là, comme un certain Gustave Mesureur, je reste maître. Après tout, ce soir, quelle chance, quel luck, comme diraient les Anglais, nous avons marché dans le ciel, se réenchanter finalement, c'est peut-être se transcender, j'ai dit.
Merci ABP, quelle conclusion, nous sommes presque dans les temps. Merci à Frédéric Vincent, dont je ne cesserai de vous recommander le livre vraiment merveilleux, Le réenchantement initiatique du monde des mythes et des hommes, qui vient de sortir aux éditions d'Etrade et qui a été notre invité d'honneur ce soir.
Merci à vous.
Merci Frédéric d'être avec nous.
Alors juste un petit scoop quand même. Est-ce que tu as une idée de ton prochain travail ?
Effectivement, j'en profite de l'occasion pour vous annoncer un travail qui est coécrit avec mon camarade Jean-Luc Maxence sur les légendes maçonniques, imaginaire et psychanalyse.
Oh là là. Oh. Ça va younger.
Bon, bah, dans 5 ans.
Peut-être dans 40, 50 ans. Ouais. Bon, on va pas dire ça à notre éditeur parce que je pense qu'il va faire la gueule. Mais disons que peut-être à la fin de l'année, verra peut-être le jour de cet ouvrage qui est.
Nous l'attendons avec impatience.
Qui est fameux parce que la maçonnerie regorge au moins d'une trentaine de légendes maçonniques avec des super-héros. Comme dans les comics américains.
Cela dit, Frédéric,
des Wolverine, des Cyclopes, des professeurs X. Et en tout cas, nous allons tenter avec, en tout cas moi-même, avec Jean-Luc Masson, de décrire un petit peu les côtés psychanalytiques et mythanalytiques de ces légendes maçonniques. Et donc, je vous promets quelque chose de fameux dans tous les cas.
Cela dit, Frédéric, quand je te vois comme moi, je sais que tu vas aller droit au but, car nous ne pouvons pas couper les cheveux en quatre.
Et je remercie nos chroniqueurs. Je remercie déjà Eric, bien entendu, à la technique, qui est notre chef d'orchestre. Je remercie BP pour avoir lu la chronique de Philippe Benamou et avoir fait des conclusions aussi remarquables. Marie-Françoise Blanchet qui était avec nous, Philippe Benamou et Jean-Michel Dardour qui étaient avec nous par les textes qu'ils ont bien voulu nous envoyer, étaient là par la pensée. Laurent Kupferman, Alain-Jacques Lacot, Hélène Cuny. Toutes et tous, merci de nous avoir fait une si belle et nouvelle émission de Deux colonnes à la une sur Radio DTC, consacré à l'imaginaire maçonnique, imaginaire qui concerne aussi Lily qui est sur les genoux de Marie-Françoise, qui est son petit chien, sa petite chienne qui est toujours avec nous, et nous saluons Lily, et comme nous l'avons fait tout au long de l'émission, eh ben je laisse Eric mettre un morceau de musique dont je vous tairai le titre parce que je ne le connais pas. C'est une nouvelle surprise pour conclure. Peut-être Eric nous donne-t-il le titre, l'auteur de cette musique.
Ou peut-être pas.
Ou peut-être pas.
Ce sera juste après le générique.
Ou pas.
Maître Eric, je suis ton fils.
Colonne à la une, les francs-maçons sur Radio DTC.